journée en direct de Meymac pour les 20 ans du parc naturel régional. Donc on est installé dans la cour du Clos del Pays, à côté d'un planétarium, entouré de stands qui parlent d'étoiles, qui parlent de la nuit notamment, et puis aussi un peu plus largement de ce que fait le parc. Et voilà, on est reparti pour une petite heure et demie d'émission, mm-hmm. une heure et demie, deux heures, on verra, on
en
s'arrêtera quand on n'aura plus rien à dire. Et cet après-midi, on va continuer à parler un peu de la nuit, parce que c'est le thème de ces deux journées. On va peut-être être un peu moins que dans les étoiles, puisqu'on va aussi revenir un peu sur Terre pour parler de ce qu'on fait sur Terre pour mieux voir la nuit. Mmh. Et on va commencer directement à en parler avec deux personnes qui sont très concernées par le sujet. Donc Violette Janet-Violant, bonjour.
Bonjour.
Donc du parc naturel régional et en charge de la réserve internationale de ciel étoilé.
Oui, tout à fait.
Et également à ses côtés, Michel Bonavita-Cola.
Bonjour.
Ah, dont on va ouvrir le micro.
Bonjour.
Bonjour Michel. Michel, donc alors vous êtes astronome amateur et je crois que vous avez joué un rôle pas mal dans l'émergence de cette idée de créer une réserve à 1000 vaches. C'est ça ?
Oui, en fait, l'histoire est relativement simple. J'ai
deux heures, c'est pas mal.
D'accord. Ouais. Bon, en fait, l'histoire est relativement simple. Je faisais beaucoup d'astronomie et j'allais souvent en mission à l'Observatoire du Pic du Midi. Et on avait décidé, dans les années 2011, je crois, de créer une première réserve de ciel étoilé en Europe, donc qui se situait à l'Observatoire du Pic du Midi, pour en particulier sauver le Pic du Midi. Et il se trouve que j'observais aussi ici en Corrèze. L'idée a fait son chemin. Quand on a eu la validation pour l'Observatoire du Pic du Midi et aussi le Parc National des Pyrénées, Donc, j'avais plus rien à faire. Donc, et en discutant un peu comme ça par hasard, on s'est dit que le ciel était aussi bon ici en Corrèze et sur le plateau. Donc on s'est dit, on va faire la même chose ici. Et on a eu la chance de rencontrer des gens magnifiques, donc en particulier Violette, qui, en fait, la réserve, c'est eux. Moi, j'ai foutu le feu aux poudres. C'est tout. Et après, tout le travail, c'est eux qui l'ont fait, quoi.
Alors, j'imagine quand on est astronome amateur, on a effectivement envie d'y voir quelque chose.
Oui.
En plus, on n'est pas forcément équipé comme les professionnels. Donc, c'est important d'avoir un ciel dégagé. C'est un peu ça qui est à l'origine de votre idée.
En fait, c'est toujours des travaux d'équipe. Hein. Tout ça, c'est des équipes. Et on avait la chance d'être avec un astrophysicien qui était assez connu, qui s'appelait Hubert Rive. Et Sylvie Vauclair. Donc, disons qu'il nous a ouvert toutes les portes. C'était l'époque du Grenelle de l'environnement aussi, où on a fait passer la loi, toutes les lois pollution lumineuse la loi sur l'environnement. Et voilà, tout ça, ça s'est bien déroulé. C'était aussi l'année mondiale de l'astronomie. Donc, on a saisi tout ça pour. Et puis, voilà. Donc, après, c'est Violette qui a. Et son équipe qui ont tout fait.
Alors moi, j'avais une question vraiment de béotien. Est-ce qu'on peut dire un peu, parce qu'on parle de réserve internationale de ciel étoilé, comme si tout le monde savait ce que c'est. Techniquement, c'est quoi une réserve internationale de ciel étoilé, Violette ?
Alors, c'est tout à fait simple. Hein. C'est un territoire d'une étendue assez grande où la noirceur du ciel est préservée et où il y a une noirceur de ciel très profonde en cœur. Donc en fait, pour vous donner un exemple, la RIS 1000 vaches, c'est l'entièreté du PNR de 1000 vaches, avec une zone cœur qui est notre cœur de parc, où la noirceur est exceptionnelle. Et en plus, le territoire s'engage à mettre en œuvre des actions de préservation de l'environnement nocturne pour conserver l'accès au ciel étoilé, pour tous.
C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir une base, plutôt un territoire favorable, et au moins historiquement, enfin, voilà, un endroit où il n'y a pas trop de villes autour et de pollution lumineuse. Et après, effectivement, donc, il y a la partie plus active. Et c'est tout ça qui donne le label, c'est ça ?
Oui, c'est montrer l'engagement. C'est-à-dire qu'on prouve par A plus B qu'on a un ciel de qualité exceptionnelle. Donc pour ça, nous, on a fait des mesures de qualité de ciel à l'aide de veilleurs d'étoiles qui étaient des bénévoles, plus des appareils automatiques qui nous permettraient d'aller chercher la brillance du fond du ciel. Et en plus, on a mis à côté de ça un inventaire de l'éclairage public. Donc, on a passé au peigne fin l'ensemble des points lumineux du territoire du parc pour bien prouver qu'ils étaient OK d'un point de vue pollution lumineuse. Donc, qui répond à différents critères, dont le fait de ne pas émettre la lumière vers le ciel, d'avoir une lumière plutôt orangée rouge, etc., etc. En parallèle de ça, il fallait bien montrer l'engagement. Et donc, pour ça, c'est toutes les soirées d'observation, de sensibilisation, de formation que l'on met en œuvre dans le cadre de la réserve de ciel étoilé pour continuer le chemin. Et donc, pour cela, il faut aussi un agent en interne qui permet de continuer le travail avec les élus, avec les associations ou tous les gens qui veulent travailler autour de du thème de la nuit.
Alors, tu as évoqué le terme veilleur d'étoiles. Ça sonne à l'oreille. On se demande un peu qu'est-ce que ça peut bien être, un veilleur d'étoiles. C'est l'aspect participatif de ce label.
Oui, nous, on a souhaité vraiment dans notre réserve. Donc, pour être réserve, il suffit effectivement d'avoir un ciel de qualité exceptionnel, d'avoir cet inventaire de l'éclairage et dire qu'en gros, on sensibilise. On a voulu aller plus loin en mettant acteurs les gens du territoire. Donc, au travers des veilleurs d'étoiles notamment, où on leur fournit un petit boîtier qui s'appelle un Sky Quality Meter, un SQML, qui permet d'aller mesurer cette brillance du fond du ciel et donc de qualifier notre ciel étoilé. Pour cela, ils sortent la nuit, on va dire 3, 4, 5 fois, s'ils sont courageux, dans le mois, quand la lune est absente, pour aller mesurer cette mesure qui nous restitue. Et moi, à la fin de l'année, je fais une analyse que je remonte à Dark Sky Association, qui est donc l'association internationale qui nous a décerné le label.
Du coup, c'est quoi le critère ? Alors, il faut qu'il y ait beaucoup de lumière, pas beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière des étoiles, mais pas de pollution. Comment on...
Alors, techniquement, peut-être que Michel pourrait compléter, ça serait plus juste.
Alors, la pollution lumineuse, c'est une pollution qui est très particulière. À tel point qu'on a passé du temps pour discuter tous les au niveau du Grenelle de l'environnement, qu'est-ce que c'est la pollution lumineuse. Alors, la pollution lumineuse, elle est très différente de la pollution classique. La pollution lumineuse, c'est un point de lumière peut émettre jusqu'à plusieurs kilomètres, d'accord ? Alors que ça sert à rien, quoi. Donc, par exemple, du Pic du Midi, on voit les lumières de Barcelone, qui est à 200 bornes. Donc, le problème, il est vachement simple. C'est que, en fait, si on veut observer, en tant qu'astronome, là, je parle en tant qu'astronome, des objets très faibles comme les galaxies, bien, il faut un ciel très pur. Donc la moindre lumière, ça masque complètement la galaxie. Donc ça devient très compliqué. Et alors il y a un deuxième aspect qui est plus ce qu'on appelle les lumières intrusives, qui en fait atteint la liberté des gens. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dormir parce qu'il y a des lumières qui rentrent dans nos chambres ou dans nos maisons. Donc voilà. Et le troisième aspect, qui est peut-être un des plus importants, parce que nous, astronomes, on n'est qu'une minorité, c'est tout l'aspect biodiversité. Et il y a un quatrième aspect qui est les économies d'énergie. C'est-à-dire que ce qui éclaire le ciel, c'est tes impôts. D'accord ? Donc on a intérêt plutôt à diminuer l'éclairage du ciel, parce que en fait les gens ils marchent pas à 100 mètres au-dessus de la route, hein, on est bien d'accord. Donc ça sert à rien d'éclairer le ciel. Voilà.
Et pour compléter, effectivement, les mesures qui vont nous prendre, en gros c'est une échelle logarithmique en fait, et plus on est proche de 22, plus le ciel est exceptionnel. Et je vous donne pas l'unité parce qu'elle est assez compliquée, mais voilà, sur le ciel de Mille Vaches, on est entre 21.6 et 21.8, ce qui est vraiment très très bon. Voilà, c'est un très bon ciel. Du fait de notre situation géographique, on est loin des grandes villes, Clermont, Limoges, Tulle, etc., et que on est sur un petit plateau, et en plus que nos communes pratiquent ont du matériel de qualité ou pratiquent une extinction nocturne massive. Il faut savoir qu'il y a plus de 90% des communes qui pratiquent l'extinction nocturne partielle ou totale sur le territoire du parc, ce qui est quand même assez exceptionnel. Ça s'est accéléré ces trois dernières années avec la crise de l'énergie, mais avant cela on était déjà à 85% d'extinction sur le territoire. Donc c'est vrai que nous, pour aller atteindre et décrocher ce label, on avait déjà un territoire très favorable.
Ben nous, en tant qu'astronomes, nous, on est des scientifiques. Hein. C'est-à-dire que on ne sait pas parler, par exemple, au grand public, ou on ne sait pas faire ça. Par contre, discuter avec des gens qui font de la technologie de l'éclairage, on a la même culture. Donc pour nous, c'est extrêmement facile de parler avec eux. C'est des gens raisonnables. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un technique, hein, de l'éclairage qui était opposé à ce qu'on faisait. Bien au contraire. Et par contre, là où on a, nous, une difficulté, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à parler au grand public. Parce que effectivement, ce qu'on fait, c'est... D'abord, je pense que ça n'intéresse personne. Et puis, c'est très compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué, quoi. C'est de la mayonnaise à nous qu'on a l'habitude. Et par contre, là où c'est vachement bien, c'est qu'il y a des gens comme Violette, comme toute son équipe, tout ça, qui diffusent toute cette information auprès du grand public, auprès des gens qui s'occupent de la biodiversité, d'accord, et par exemple, qui organisent ce qu'on a aujourd'hui, quoi, hein, c'est-à-dire des choses où on peut vraiment parler d'astronomie, on peut parler de physique, on peut parler d'astronautique et on peut parler de biodiversité. Donc dimanche matin, je crois qu'il y a une conférence là-dessus, et ça, c'est génial, quoi.
Ça serait quoi les freins qu'on rencontre dans la population pour la mise en place, sur le territoire, par exemple?
Bon, la phrase assez simple que j'aime bien dire, c'est qu'il ne faut pas confondre insécurité et sentiment d'insécurité. C'est vraiment un des freins, c'est la peur de la nuit, changer des grandes habitudes. On a toujours éclairé pourquoi on couperait maintenant. On a un peu le retour en arrière.
Est-ce que c'est vrai qu'on a toujours éclairé?
Non, tout à fait. Mais c'est vrai que sur la montagne Limousine, on a eu l'éclairage assez tôt au final. Il faut savoir que Bourganeuf est une des premières villes éclairées de France. Donc sur le territoire, c'est arrivé assez vite et c'est un retour en arrière pour certains villages ou communes. Mais on a quand même une conscience de la biodiversité et de l'environnement ici qui est très préservée. Et du coup, une action d'éteindre a été assez évident il y a déjà 5, 6, 7 ans, quoi. Même plus, en fait, depuis que je suis au parc, donc à peu près 14, 15 ans. Donc, c'est quelque chose qui est entré. Donc, le frein, ça peut être, voilà, ce sentiment, pour moi, d'insécurité. Après, notre approche qu'on a avec les communes et les habitants, parce qu'on cherche à travailler avec les deux, c'est vraiment de re-questionner le besoin. Et on va étudier avec eux, on fait des petites réunions publiques, par exemple, avec habitants élus, en disant, ce point lumineux, j'en ai besoin quand? Pour quel usage? Ça permet de le qualifier, c'est-à-dire oui, il pourra éteindre à telle heure, ou alors il pourra être sur détection, ou alors il peut descendre de son mât de 10 mètres de haut et être sur quelque chose de piéton, parce que c'est du piéton qu'on a besoin. Il faut savoir que les voitures ont des phares, ils n'ont pas besoin de lumière. Par contre, les piétons, c'est eux qu'il faut mettre en sécurité, c'est les cyclistes qui pourraient se balader à la nuit tombée, voilà, un soir d'hiver. Mais voilà, on a une évolution très positive et dans l'extinction nocturne, on le voit aussi qu'on va même au-delà. J'ai des communes qui, par elles-mêmes, ont proposé des extinctions saisonnières. Donc il y a des communes qui n'allument plus l'éclairage de mai à septembre. Et donc ça, c'est hyper intéressant.
Du tout.
Donc ça, c'est hyper intéressant pour les économies d'énergie, mais aussi pour l'impact que l'on a sur la biodiversité nocturne et pour l'impact humain aussi. C'est-à-dire qu'on ne met plus des lumières artificielles dans notre environnement et on se base, et ce qui correspond bien à notre horloge biologique, sur la lumière naturelle qui nous rythme au quotidien. C'est l'horloge circassien. Du coup, voilà, un petit peu notre...
Il faut savoir que, en fait, je reviens sur l'aspect technique, c'est que nous, on a le fait de parler techniquement et scientifiquement de la pollution lumineuse, eh bien, ça nous a permis de travailler avec des éclairagistes et de mettre au point avec eux des nouveaux systèmes d'éclairage. Tu parlais par exemple des systèmes de détection. Hein. Il y a des villes, nous on a beaucoup travaillé avec des villes comme Toulouse ou Paris ou même des villes moyennes, hein, genre Argentat, tout ça. Eh bien, on a des nouveaux types d'éclairage qui sont beaucoup plus avec des systèmes, j'allais dire, intelligents. Et aussi avec des. Alors je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais avec des spectres, c'est-à-dire des couleurs moins violentes.
Alors oui, je veux bien qu'on parle un peu des... Tu parlais de violette, de lumière orangée, rouge. C'est quoi l'impact, en fait, du spectre, enfin, ou de la couleur de la lumière?
Oui, Michel. Alors, on se rend compte que la lumière bleue est très violente pour la biodiversité. Pour ça, il suffit de regarder autour d'un lampadaire. Le nombre d'insectes qui sont morts en essayant de tourner, en se faisant, il y a des pièges à lumière. Donc l'idée, c'est de limiter ces lumières bleues. D'abord parce que ça diffuse beaucoup dans l'atmosphère, que c'est pas bon pour les astronomes. Et surtout parce que au niveau biodiversité, c'est monstrueux, quoi. Ça a des impacts énormes. Alors au niveau des animaux, on a plein d'exemples à vous donner, hein, si ça vous intéresse. Mais il faut savoir, par exemple, que la lumière rouge a beaucoup moins d'impact. Par exemple, là où il y a des chauves-souris, on évite les lumières bleues. On évite là où il y a des espèces vraiment à protéger. Parce qu'il faut savoir que, excuse-moi, je vais être un peu technique, mais il faut savoir que les gens ignorent la nuit. C'est d'où l'intérêt de ce que vous faites ici.
Oui, c'est ce que disait Lionel ce matin, la nuit on dort.
Oui, enfin pas nous.
Sauf les astronomes, évidemment.
Et nous, il faut savoir que il y a deux fois plus de papillons, par exemple, la nuit que le jour. Ça paraît débile, hein, mais c'est comme ça. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de faire essayer de découvrir la nuit aux gens. Il y a énormément, je pense à la loutre qui chasse la nuit, il y a les renards, les machins, tout un tas de bidules qui vivent la nuit. Il y a beaucoup plus de vie la nuit que le jour. Je parle pas pour les humains, hein, enfin, sauf certains, mais...
Il n'y a pas que les
astronomes.
Oui, j'en connais.
Mais voilà, donc justement l'intérêt du parc régional, c'est qu'il travaille énormément sur ce sujet-là. Il y a des gens, notamment au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui travaillent vraiment sur ces sujets-là, parce que c'est un sujet qui est méconnu. Voilà.
Alors comment on fait au parc pour travailler sur ce sujet-là? Et puis comment on fait pour transmettre cette connaissance de la nuit où effectivement on n'est souvent pas là?
Alors sur le sujet de comment on fait sur ce sujet-là, nous on participe à des études à l'échelle du Massif Central où on est sur une étude sur les chiroptères par exemple, ou avec qui je travaille avec mon collègue sur ce sujet-là. Effectivement, il compare la population de chiroptères.
Chiroptères, c'est chauves-souris.
Chauves-souris, voilà, en fonction des lumières. Donc, il compare des lumières coupées à telle heure, qui se rallument à telle heure, d'autres qui sont allumées toute la nuit. Donc, il va essayer de mesurer l'impact de l'extinction nocturne et il essaye, s'il a sur son échantillonnage, la différence entre une LED qui a une température de couleur plus blanche sur du sodium haut de pression qui a plutôt une couleur orangée. Donc, ça, on aura les résultats bientôt. Cette étude se fait à l'échelle du massif, donc ça se fait dans d'autres parcs du Massif Central, donc on aura d'autres sites que nous pourrons comparer. Il y a 2 ans, on a fait une étude sur les amphibiens. L'idée, c'est de la refaire 3 fois encore, 2 fois encore pour avoir des stats plus posées. Mais l'idée, voilà, c'est qu'on creuse sur ces sujets-là. On voit qu'il y a un impact, on voit que c'est différent en fonction des espèces, des sites et de la présence lumineuse qu'il y a, en fait. Et pour transmettre, c'est tout le challenge que l'on a mis sur notre RIS, c'est qu'on se base sur différents volets. Donc, on a 5 grands volets. On a un volet qui tourne autour de l'énergie, donc là où on accompagne les élus sur le changement de pratique et de l'extinction, etc. On a un volet autour du tourisme, où on développe un peu cet aspect de découverte de la nuit quand on vient visiter le plateau de Mille Vaches, où on vient souvent pour les grands espaces, les tourbières, la rando, mais on peut aussi venir pour découvrir cette nuit étoilée. On a un volet autour de la biodiversité nocturne, notamment les 2 études que je vous ai citées, et on a 2 derniers volets qui sont sensibilisation, éducation et culture. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le sous-titre de notre réserve, c'est l'âme de la nuit, qui veut dire l'âme de la nuit. Donc dès le départ, on a souhaité mettre ces ressources-là. Ce qui fait que nous, sur Mille Vaches, on est comme ça. Donc, on y a mis de l'occitan, on y met nos ressources locales. On a aussi fait des œuvres autour de la nuit et donc travaillé avec le Centre d'art contemporain de l'île de Vassivière. On travaille également avec la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson. On fait des projets sur la nuit et les tapisseries, et ainsi de suite. Donc, l'idée, nous, pour transmettre, c'est pas de parler de la nuit de but en blanc aux gens, mais c'est d'aller chercher l'ensemble des ressources de notre territoire pour les faire venir et les faire parler de la nuit. Alors, pour l'événement des 20 ans du parc, c'est pas le parti pris, hein, on y va à fond pendant 2 jours, mais pour le programme que l'on a sur l'année, si vous prenez le temps de le regarder, c'est toujours nuit et quelque chose, nuit et biodiversité, nuit et culture, nuit et enfants, nuit et... voilà, on s'invite dans les écoles.
Nuit et enfants, c'est pas toujours un plaisir, mais...
Donc,
d'ailleurs,
voilà.
Question blague à part sur les enfants, s'il y a bien... une population qui est pas trop censée vivre la nuit, même qui se couche assez tôt, donc qui voit peu la nuit finalement. Alors ça dépend lesquels, voilà, mais souvent même quand ils sont réveillés, on les met pas trop dehors. Comment on fait pour les sensibiliser
Alors ben nous, soit on vient dans les classes ou on prend des prestataires du territoire pour aller parler de la nuit dans les classes. Ça fait quelques années qu'on propose, donc on n'a pas pu le faire cette année, mais sinon ça faisait plusieurs années qu'on proposait des nuits en bivouac, c'est-à-dire aller expérimenter la nuit en petits groupes, bivouaquer, regarder le ciel, écouter, voir si c'est des chauves-souris, des vers luisants, etc. S'appréhender, prendre le temps de ressentir la nuit. Là, dans le cadre de la fête du parc, on est allé dans les classes. On a sensibilisé plus de 220 enfants au thème de la nuit. Demain, vous pourrez découvrir leurs œuvres d'art. L'idée, c'est de faire comme ça, petit à petit. On les implique par d'autres manières. Hein. Ça peut être les enfants, mais même les grands. On a fait un film qui s'appelle notamment L'âme de la nuit. Trois petits courts-métrages qui sont accessibles sur notre chaîne YouTube. Et donc là, l'idée, c'est que nos comédiens, ils sont du territoire. Pour participer au tournage, il y a eu leur famille. Donc petit à petit, on voit qu'on essaime, on touche un peu tout le monde. Et l'idée, c'est d'utiliser nos sens, nos ressources locales pour aller sensibiliser le plus grand nombre, dont les enfants. Et ça marche bien.
Et du point de vue du tourisme que tu citais tout à l'heure, est-ce que vous commencez à avoir un peu des demandes spécifiques qui rapportent à la nuit, enfin des gens qui disent, qui ont vu passer l'information réserve internationale de ciel étoilé et qui sollicitent le PNR ou les offices de tourisme là-dessus?
Alors oui, on en a de plus en plus. Bon, on en a eu beaucoup suite à notre labellisation sur l'été 2022 où on n'était pas prêt à accueillir tout ça. Donc oui, on a de plus en plus de demandes. Du coup, pour y répondre, on a créé des sites d'observation de la risse mille vaches. Il y en a une dizaine sur le parc qui permet d'aller appréhender la nuit seule. L'idée demain, c'est peut-être d'en équiper un ou deux d'objets de contemplation pour déjà être dans des postures plus sympas, pour rester plus longtemps la nuit, pour simplement regarder le ciel étoilé.
Et de quel type, du coup, concrètement?
Ça peut être des objets en bois où on peut s'allonger dessus. Enfin, voilà, ça peut être différentes choses. C'est un projet pour nous 2025, par exemple. Ou du matériel pédagogique en dur qui pourrait rester. Par exemple, une carte de ciel qui pourrait être visible. Enfin, voilà, des choses comme
un
ça.
Un télescope.
Ça serait peut-être plus compliqué parce qu'en plus, il faut savoir le manipuler. Mais par contre, on travaille toujours à faire quelques soirées d'observation du ciel étoilé. Mais c'est vrai qu'on a quand même cette demande de personnes qui aimeraient être accompagnées la nuit avec un peu de la visite guidée nocturne. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui que nous, on ne propose pas.
Ça existe ailleurs ?
Sûrement, je me dis que ça doit bien exister dans des endroits très touristiques. Mais non, ce n'est pas le cas pour nous. Je sais que les offices de tourisme y réfléchissent pour le coup parce qu'elles ont la demande de séjour teinté nuit. Voilà.
Des colonies de vacances pour adultes, peut-être ?
Des colonies de vacances pour adultes, ça serait possible.
Oui, Michel.
Je voulais simplement vous quand on parle de biodiversité, il y a ce qu'on appelle un effet cascade. Alors nous, on s'en est rendu compte de manière simple, c'est que moi j'avais des étudiants à Toulouse, et donc je leur ai proposé une étude sur les grenouilles. Alors ce qui est assez marrant, c'est de passer de l'infiniment grand à l'infiniment petit, quoi. Et donc, j'ai eu des étudiants pendant 2 ans, là. Et je les ai fait bosser sur les grenouilles. Je leur ai dit, Toulouse, c'est le rugby, donc on a l'habitude de se rouler dans la boue. Donc, je leur ai dit, maintenant, vous allez vous rouler dans la boue, vous allez en Charente, m'étudier la répartition des grenouilles en fonction de la distance par rapport à une ville, d'accord, qui était... ça serait cru à Kourou, là, ça envoyait tellement avec l'église. Et on s'est rendu compte en faisant... Donc nous, on a fait l'analyse du ciel, paramétré par rapport à la distance. Et eux, ils sont venus avec leur studio un peu comme vous, là, d'enregistrement, là. Et donc ils ont enregistré les grenouilles. Je ne sais pas si vous avez essayé de compter les grenouilles la nuit, mais il faut vraiment être bon. Donc en faisant une analyse de Fourier, enfin bref, voilà. Il faut savoir que les mecs, c'était des musiciens aussi. Donc, et on a fait le décompte de grenouilles, et on s'est rendu compte qu'en fait, plus on s'approchait de la source, de lumineuse, moins il y avait de grenouilles. Donc on a proposé ça à des scientifiques qui en connaissent 100 fois plus que nous. Et ils nous ont donné une explication. On s'est rendu compte, à la limite, qu'il y avait un puits. Ce qu'on appelle un puits où il n'y a plus de grenouilles, quoi. Et en fait, ce qu'ils nous ont dit, c'est simple, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet cascade, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de grenouilles parce qu'elles n'avaient plus rien à bouffer. Elles n'avaient plus rien à manger au niveau insectes et tout. Voilà. Donc, plus on s'approchait de la source, moins il y avait d'insectes de nuit, parce que c'était la nuit. Hein. Les grenouilles, c'est surtout la nuit. Hein. Enfin, oui,
pourquoi il n'y avait plus d'insectes? Parce qu'ils étaient attirés par les lumières de.
Ils avaient été soit bloqués, soit cramés par les lumières. Donc, du fait qu'il y ait ce vide. D'accord. Eh bien, en fait, il y avait plus de grenouilles. C'est un effet cascade. C'est parce que un certain type de bestioles disparaissent, qui nous paraissent complètement nuls, quoi. Qui va s'intéresser aux insectes la nuit dans les marais, poids de vin, n'importe quoi. Donc, à partir de là, on s'est rendu compte que il y avait un truc assez puissant, quoi. Ces effets cascades. Et après, il y en a des gens de Lille, d'ailleurs, de Muséum d'Histoire Naturelle, qui ont commencé à travailler sur ce sujet-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la biodiversité la nuit, c'est très mal connu, quoi. Donc, voilà.
Et vous travaillez un peu là sur ce sujet au parc, sur la biodiversité. Il y a des études scientifiques
oui, voilà,
un peu
qui sont
menées, c'est ça?
Ce qu'on disait un peu tout à l'heure.
Voilà. Mais spécifiquement, il y a des espèces plus que d'autres qui sont étudiées
Oui, les chiroptères, c'est une espèce très, très étudiée, où il y a quand même des choses qui sont assez sorties. Et puis, bon, et les amphibiens, par exemple, c'est assez peu étudié. C'est pour ça que nous, on s'y était remis il y a 2 ans et qu'on aimerait bien poursuivre. Et les insectes, il y a des études qui commencent là, dans le parc national des Cévennes, sur certains types d'insectes, mais c'est des partis pris, parce que pour l'étude de certaines espèces, il faut hélas les capturer. Donc voilà, en fonction,
mais alors,
les choix sont faits.
Quand on est parc naturel régional, c'est quoi les leviers qu'on a pour lancer des études scientifiques? Parce que vous n'êtes pas non plus, vous n'êtes pas le CNRS. Donc,
non,
comment
du
on tout. Il y a des bourses, il y a des appels à projets
Oui, c'est nous, on fait souvent, en tout cas nous au niveau du parc, on se coordonne avec le Massif Central, donc c'est géré par l'IPAMA, qui est l'association des parcs du Massif Central, qui a des fonds Massif Central qui nous permettent d'aller travailler après avec des universitaires, le muséum. Et après, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des stages longs qui nous permettent de renforcer nos équipes en interne et faire le terrain sur les bonnes périodes.
Et vous travaillez aussi avec le conservatoire ou les autres
Alors, sur ces études-là spécifiquement, il y a des partenariats, mais pas forcément. Par contre, il y a des passerelles qui font parce qu'effectivement, eux font des choses et inversement. Voilà, on est en dialogue en tout cas permanent.
Alors il y a un truc qui un plus depuis pas mal de temps, enfin disons une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'avant on était obligé de faire des études d'observation du ciel. C'est très compliqué. Regardez, aujourd'hui, il fait pas beau.
Ah, si, ça se lève là. On a presque un rayon de soleil là. C'est
ouais,
quasiment.
C'est ouais. Mais j'irai pas observer les galaxies
Contre.
Donc, le plus qu'il y a maintenant, c'est qu'on est capable de fabriquer des cartes de pollution lumineuse extrêmement précises, lampadaire par lampadaire. Hein. Enfin, c'est pas de la rigolade. Hein. Enfin, c'est ce qu'on a utilisé ici avec la société Dark Sky Lab, hein, dont je suis aussi un des fondateurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à ces, on a un paramètre qui est plus simple maintenant, puisqu'on n'a plus à faire l'observation du ciel, mais observer les bestioles la nuit. Déjà le jour. Alors pour nous, observer les galaxies, c'est pas un problème. On sait faire. Mais observer, je sais plus quoi, les chiroptères la nuit. Il faut être vraiment fort là.
Eh ben tout ça, je pense qu'on va développer un peu ça avec Olivier Villa qui rejoindra le plateau tout à l'heure aux alentours de 15h. Je pense que lui, il s'y connaît bien là-dedans. Il va pouvoir nous détailler un petit peu cette histoire de biodiversité nocturne et comment on l'étudie, comment on la favorise. Sur la réserve, les perspectives là pour les années qui viennent, c'est quoi? C'est développé, c'est renforcé?
Alors c'est renforcé, on a encore du travail, même si on est réserve, on a encore du travail sur notre patrimoine d'éclairage public. L'objectif c'est à 10 ans être 100% conforme aux critères qu'on s'est donnés sur l'orientation du flux lumineux, la température de couleur, les temps d'éclairage. C'est continuer à développer nos projets que je vous disais qui portent du sens, c'est-à-dire culturel, de sensibilisation. Donc on a tout le temps de nouvelles idées avec ma collègue en charge de la culture et de la sensibilisation. Et puis voilà, poursuivre nos études pour œuvrer, parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des études à l'échelle mondiale, nationale, d'impact sur la biodiversité, mais on avait vraiment envie d'être acteurs là-dedans, d'en faire chez nous, parce qu'en termes d'argumentaire auprès des gens et des élus, de se dire oui, à cause de notre lumière ici, on a un impact sur telle et telle espèce, on va être peut-être plus s'engager pour la réduction de la pollution lumineuse localement, d'où nos efforts qui seront poursuivis, et puis ça fait partie de nos missions au parc, d'agrandir la connaissance sur la biodiversité.
Eh bien, merci, on vous souhaite bonne continuation, et puis voilà, faut développer ça, on en reparlera sur Radio Vassivière dans le détail, on va suivre ça de très près. Ben, merci Pierre, merci Violette.
Merci, puis, bonne journée.
Bonne journée, bonne journée. Fin de fête. Et on va... Alors voilà, bon, on va attendre, on va faire une petite pause musicale.
Ouais, on va le temps de musical. Alors qu'est-ce que tu nous as trouvé ?
Alors j'étais en train de chercher. Alors, j'ai beaucoup de choses, ça m'embête de choisir parce que j'ai envie de toutes les mettre. J'en ai vraiment trouvé plein sur la nuit, sur les étoiles. Du coup, je pense que je vais vous souhaiter à tous une mauvaise nuit et vous dire à demain avec Adamo.
Dors, ma princesse d'amour, d'un jour mais pas toujours, ça je l'ai bien compris. Dors, ma cruelle douceur, ton couteau dans mon cœur à tout jamais meurtri. Dors, ma promesse du ciel, ma menteuse sincère, ma passeuse d'enfer. Dors, tu es comme le soleil, tu promets des merveilles, mais tu me laisses en hiver. Mauvaise nuit, à demain, que le diable t'emporte. J'attendrai le matin, et comme je ne suis pas chien, je t'ouvrirai ma porte. Mauvaise nuit, à demain. Tu m'aimes de ton petit air lointain dans un drôle de parfum, mais je te croirai quand même. Sommeil de l'infâme qui a soufflé mon âme comme un cierge qu'on éteint. Dors dans les bras dont tu rêves, dors pendant que j'en crève, innocente catin. Dors ma divine racaille, ma blessure, ma faille, je veillerai en vain. Dors et passe-moi les détails. Je n'étais qu'un feu de paille, je brûlerai jusqu'à ma fin. Dors mon vénéneux désir, tu m'as poussé au pire, aimé celle qui me détruit. Dors, je ne vais pas en mourir, j'ai cloué ton sourire aux parois de mes nuits. Mauvaise nuit, à demain, je vais être sincère. Je te souhaite toutes les misères, tous les maux de la terre et des cauchemars sans fin. Mauvaise nuit, à demain, que le diable t'emporte. J'attendrai le matin et comme je ne suis pas chien, je t'ouvrirai ma porte. Mais je te croirai quand même. Mauvaise nuit, à demain. Que le diable t'emporte. Mauvaise nuit, à demain. Mauvaise nuit. Mauvaise nuit, à demain.
il y a 20 secondes. Oui, mais on va faire le topo, c'est bien. Petite musique bien pour nous mettre dans l'ambiance un peu cosmique.
C'était Mauvaise Nuit à Demain.
D'Adamo. Bon, D'Adamo. Nous vous souhaite pas une mauvaise nuit, on vous souhaite une bonne journée.
Ouais, plutôt.
Voilà. Parce que nous, on est gentils à Radio Vassivia.
Grave, voilà. On est méga gentils.
Et on est en direct, toujours, à Mémac, juste devant le Clos del Pays, entre le Clos et la Halle. On est là pour fêter les 20 ans du Parc Naturel Régional. Mm-hmm. Et on continue cette émission en direct. On a parlé réserve internationale de ciel étoilé avec Violette et Pierre. Et là, on va monter un petit peu, on va traverser l'atmosphère et on va parcourir quelques parsecs. Je sais pas si je sens que je dis des bêtises. Voilà, j'ai un cosmologiste en face de moi. Je tremble. Et on va aller s'interroger sur l'espace, sur la nuit noire, sur les phénomènes qu'on peut voir ou pas dans le ciel. Donc, bonjour François Bouchet.
Bonjour.
François Bouchet, alors vous êtes cosmologique, vous êtes directeur de recherche émérite à l'Institut d'astrophysique de Paris. C'est ça ?
Oui, que j'ai dirigé jusqu'à il y a quelques mois, effectivement.
D'accord. Et vous avez travaillé, alors notamment, j'imagine pas que, mais sur la mission Planck.
Oui, alors ça c'est un peu un de mes bébés principaux. J'y ai passé 27 ans de ma vie depuis le moment où on l'a proposé à l'Agence spatiale européenne jusqu'au moment où on a rendu les résultats il y a quelques années. Ce qui nous a permis d'abord de crever un certain nombre de barrières technologiques sans lesquels il aurait été impossible de faire ce projet, jusqu'à fixer un certain nombre de choses telles que les gens entendent, mais qui ne savent pas d'où ça vient, du genre l'univers a 13,8 milliards d'années, il y a beaucoup d'énergie noire, il y a beaucoup de matière noire, enfin tout ce genre de choses. Et surtout, ce qui me motive le plus beau résultat, c'est d'apporter de fortes indications que nous sommes les enfants du vide. Alors, vos orateurs vont peut-être se demander un petit peu, mais de quoi il parle le garçon ? Alors, je vais vous dire.
De quoi il parle le garçon ?
De quoi parle-t-il ? Voilà, merci le cœur. Alors, grâce à Hubert Reeves, notamment, beaucoup de gens ont compris que nous sommes les enfants des étoiles. Pour une raison simple, c'est que ce dont nous sommes constitués, c'est des atomes qui ne sont pas initialement présents dans l'univers et il faut que les étoiles aient processé la matière interstellaire initiale pour fabriquer le carbone, l'oxygène, tous ces éléments sans lesquels on ne serait pas là. Très bien. Mais néanmoins, il faut peut-être se poser la question, ça c'est la génération d'après, Hubert était un de mes maîtres, c'est d'où viennent les étoiles ? Voilà. Et bien maintenant, nous commençons à avoir une petite idée, en fait assez précise, notamment grâce aux résultats du satellite Planck, puisqu'on est capable de décrire d'une certaine manière l'épopée cosmique, que je vais vous résumer ces 13,8 milliards d'années en 2 à 3 minutes.
Oui, ça serait bien d'être bref.
Parce que je vais essayer de faire en 2 ou 3 minutes. En bref, ce qu'on comprend maintenant, c'est que l'univers est passé par une phase homogène, sans direction privilégiée, très chaud, très dense, et puis très lumineux, et ça c'était il y a 13,8 milliards d'années. Il est devenu transparent, la matière a pu commencer à se ressembler, à rassembler à partir de grumeaux primordiaux, et ça va faire, au bout d'une centaine de millions d'années plus tard, les premières étoiles, les premières galaxies qui vont s'agglutiner, qui vont former les grandes structures de l'univers au sein desquelles il y a une petite espèce qui va commencer à prospérer. Mais se pose la question des grumeaux primordiaux. Et ce que nous avons compris, plus exactement, les théories que nous avons élaborées qui décrivent parfaitement bien ce que nous avons mesuré, c'est qu'avant que la matière et la lumière ne soient créées, ce qui dominait tout l'univers, c'était l'énergie du vide. Alors, le vide et non pas le néant. Attention, il faut faire très très attention. Nous parlons du vide quantique, ce vide quantique de la mécanique quantique, celle qui a permis de construire les lasers, les téléphones portables, les ordinateurs, tout ça. Donc, à partir de lois qui sont pas du tout, qui sont peut-être surprenantes, mais qui sont utilisées tous les jours et tout à fait valides, on sait que le vide a une énergie et peut fluctuer. Voilà, on peut pas tenir le vide tranquille. C'est comme un bouillonnement constant. Et bien, ce dont on s'est rendu compte, c'est que dans les conditions de vide tout à fait au début de l'univers, dans le premier milliardième de seconde après le Big Bang, à ce moment-là, nous avons eu une période pendant laquelle le vide dominait, les grumeaux primordiaux se sont formés, et à l'issue de cette phase, qui a duré très peu de temps en fait, le vide s'est transformé en matière et lumière. Je ne vais pas vous donner le détail, mais suivez simplement le récit cosmique.
Oh, je suis dedans.
Voilà. Et donc, ces grumeaux primordiaux, issus du vide quantique, vont initier la croissance vers la complexité qui vont progressivement former les étoiles, les galaxies, les planètes, tout ce que vous voulez. Et donc, le vide ayant engendré les étoiles nous ayant engendré, nous sommes les enfants du vide.
Voilà, belle démonstration. Je ne sais pas si ça répond à tes questionnements sur les origines, Justine.
Ah bah, je viens de comprendre que je suis un enfant du vide. Il va falloir que j'en parle un peu avec ma psy, mais bon, bah ça...
Mais c'est joyeux, hein, c'est pas quelque chose qui est...
Non, tout à fait.
Nous ne sortons pas du néant, hein, attention.
Alors, la mission Planck, on va rentrer peut-être un petit peu dedans, c'est l'étude d'un rayonnement présent dans l'univers qu'on appelle le rayonnement fossile. Alors, pour introduire un peu la discussion là-dessus, je vous propose d'écouter un petit extrait d'une petite vidéo qu'on trouve assez facilement sur YouTube de Florence Porcel, peut-être vous connaissez, qui parle du fond diffus. Voilà, ça va introduire un petit peu le sujet, puis on en parle après.
Le fond diffus cosmologique. Derrière ces trois mots un peu barbares se cache quelque chose de tout à fait fascinant. C'est l'univers quand il était bébé. Oui, cette image, qui à première vue ressemble à un œuf de Pâques décoré sous acide, c'est la première photo de l'univers nouveau-né. Il n'était âgé que de 380 000 ans, alors qu'il en a aujourd'hui 13,8 milliards. Vous avez bien entendu, ce que vous voyez là, c'est tout l'univers. On voit exactement le moment où les particules de lumière ont pu, pour la première fois dans l'histoire de l'univers, se propager dans l'espace-temps.
Voilà, un petit résumé assez rapide de ce qui vous a pris 30 ans à étudier. Donc j'imagine que c'est un petit peu plus complexe que ça, évidemment. C'est assez juste ?
Ah, c'est assez juste. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais c'est juste. J'aimerais rajouter quelques éléments de compréhension, peut-être. Donc... la vitesse de la lumière n'est pas infinie. Donc, quand on regarde loin, on regarde dans le passé parce qu'il faut défalquer le temps de parcours de la lumière. Et quand on regarde très loin, on regarde très loin dans le passé. Il se trouve que l'univers est essentiellement transparent. Et en fait, il est transparent sur une distance qui est telle qu'il a fallu quasiment tout l'âge de l'univers pour que la lumière la parcourt. 13,8 milliards d'années-lumière. Avec une petite approximation, mais c'est pas très grave. Et donc, on voit le moment où l'univers est devenu transparent, et ça, c'est peu de temps après le Big Bang, 400 000 ans après le Big Bang, et ça, c'était il y a 13,8 milliards d'années. Et donc, ce qu'on voit, pas avec nos yeux, parce que nous ne voyons qu'une nuit noire, si on n'est pas pollué par les lumières nocturnes, etc., donc, ce qu'on voit dans les longueurs d'onde millimétriques ou centimétriques, eh bien, de manière incroyable, sauf quand on regarde dans le plan de la galaxie, on voit directement l'univers tel qu'il était il y a 13,8 milliards d'années. C'est-à-dire, on reçoit des photons, des grains de lumière, qui se sont promenés sur une distance telle qu'il a fallu quasiment tout l'âge de l'univers pour qu'ils nous parviennent. Alors, ce que ça veut dire, c'est que donc, on voit... très exactement une surface qui ressemble à la surface du Soleil pour les mêmes raisons et qui traduisent et en gros les grumeaux qui existaient à ce moment-là. Et si on vous dit 13,8 milliards d'années, ça c'est les grumeaux qui sont avant les étoiles, avant les galaxies, avant tout ça. Et donc on peut aller mesurer directement le bébé enfant pour vous donner une petite image. Là on parle sur un centenaire, on parle vraiment des premiers instants, hein, des premiers jours de l'univers. Et donc, l'ambition, après la découverte par Kobe, de le fait que ça existait, que ce n'était pas simplement une lubie de théoricien, l'ambition de Planck, ça a été de dire « nous allons faire la cartographie ultime ». C'est-à-dire celle pour laquelle il n'y aura pas besoin d'y revenir. On va construire une machine qui aura toutes les propriétés qu'il faut pour extraire toute l'information que l'univers a la gentillesse de bien vouloir nous fournir. Alors ça, ça s'est traduit par un ensemble de propriétés techniques, du genre, il faut mesurer les différences de température entre deux directions avec une précision qui est de l'ordre du millionième de degré. Hein, millionième de degré.
Donc on est à la fois dans les milliards et dans les millionièmes.
Voilà, donc des toutes petites variations de température qu'il va falloir mesurer très précisément. Il va falloir que tout ça, ça soit fait pendant très longtemps. Tout un ensemble de propriétés qui ont fait que bah, c'était une machine unique au monde. En fait, on n'était pas tout à fait sûr de savoir la construire quand on l'a proposée. Bon, on va couper l'histoire courte. Finalement, on collecte quelques milliers de milliards d'échantillons, c'est-à-dire de mesures de points du ciel. Le satellite fonctionne pendant quelques années. Il envoie toutes les données à l'Institut d'astrophysique de Paris, où j'ai eu la chance de pouvoir construire un centre de données qui, à l'époque, était dans le top 500 mondial des plus gros ordinateurs, quand même, pour vous donner une petite idée, quand même. On a mis tous ces instruments. On a passé plusieurs années à environ 200 chercheurs à travailler, à les triturer, à aller dans tous les sens, à se critiquer les uns les autres, à dire « mais non, mais là, il y a une faille dans le raisonnement », etc. Bon, à développer des algorithmes mathématiques de plus en plus puissants pour que tout ça aboutisse à d'abord une carte, la carte du fond du ciel, qu'on peut voir dans les livres, enfin bon, tout ça.
Ça, hein. C'est une espèce de gros ballon de rugby.
Voilà, alors gros ballon de rugby, ce que ça veut dire, c'est tout simplement, c'est une représentation du ciel. C'est-à-dire que le ciel autour de vous, bah, c'est sur une sphère. On ne peut pas représenter la sphère sur le plan sans la déformer. Il y a une projection qui s'appelle projection Mollewald, qui projette sur un ballon de rugby. Et où donc, voilà. Donc ça, c'est simplement un artefact de projection, avec des petites couleurs rouges et bleues, qui montrent en gros les fluctuations, les grumeaux primordiaux, vraiment les vrais, ceux qui sont là. Et après, l'étape suivante, c'est de dire, bon, bah, d'accord, mais comment je tire de l'information de ça? Et ça, le truc, entre guillemets, c'est que, en fait, ce que les théoriciens ont fait à l'avance, c'est de construire un atlas, disons, des différents types d'univers tels qu'ils pourraient apparaître. Donc, avant de faire les mesures, on dit, ben voilà, si c'est un univers avec, si vous pensez à un cocktail, hein, un peu de curaçao, un peu de, etc. Bon, vous faites un certain mélange et ça va apparaître de telle manière. Et puis, vous en faites plein. Et puis, quand le satellite arrive, vous travaillez donc pas tout à fait 27 ans, hein, voilà. Et puis, eh ben, vous comparez. Et si vous avez de la chance, eh ben, vous avez le coupable dans le tas. Et donc, c'est comme ça qu'on peut vous dire. Le modèle qui décrit ce qu'on a observé, c'est un modèle dans lequel l'âge de l'univers a 13,8 milliards d'années. C'est un modèle dans lequel il y a telle quantité d'énergie noire, telle quantité de matière noire, telle quantité de choses habituelles comme vous et moi, tel taux d'expansion de l'univers, voilà. Donc c'est ça, en fait, tout ce truc-là, c'est entièrement mu par l'idée que, un, on peut observer les grumeaux primordiaux, si on a les développements technologiques nécessaires, et qu'avec ça, sont encodés sous une forme accessible à l'humanité et à nos petites cervelles, une sorte de Graal cosmologique qui sont les chiffres, disons, qui gouvernent notre évolution du monde.
Wow. Pas facile de rebondir après ça.
Mais si, vous allez le faire très bien, je suis sûr.
Tout à fait.
J'ai totalement confiance que vous allez y arriver.
Voilà.
Allez.
Alors, cette histoire de la découverte du fond diffus. Alors, vous n'avez pas découvert l'existence du fond diffus.
Ah
ça,
non.
Ça, c'était déjà prévu par la théorie et ça a été découvert donc, par Kobe,
alors,
c'est ça?
Non, mais d'abord, le fond diffus lui-même, c'est encore avant. C'est, hein. C'est Penzias et Wilson.
D'accord.
Donc, ça, c'est bien avant, prix Nobel, machin, etc. Pendant longtemps, on a eu juste l'existence du fond. Et ce que Kobe a pu faire et annoncer en 92, satellite de la NASA, c'était de dire, on a enfin la sensibilité pour commencer à voir les grumeaux, les fluctuations, les variations de température en fonction de la direction. Simplement, c'était juste un peu comme une image qui serait floue. Et donc la question, c'était comment on arrive à être plus précis et avoir des détails plus petits. Et pour ça, bah, il faut mettre 1 milliard et 2 à 300 personnes qui travaillent pendant 25 ans. Alors, mais on peut le faire.
Vous l'avez fait.
Mais voilà, le truc qui est extraordinaire, ce n'est pas tout ce qu'il faut mettre en œuvre. C'est la possibilité même de le faire. Et c'est ça qui nous excite et qui nous motive, nous, scientifiques. C'est quand on se dit, ah, là, on va commencer à pouvoir répondre à des questions absolument essentielles, fondamentales. On n'est plus avec les gogoles qui pensent encore que la Terre est plate. On commence à être capable de raconter des choses sur l'histoire même de l'univers et des choses qu'on peut expliquer à tout un chacun. Moi, vous me donnez le temps, j'explique à peu près à n'importe qui comment on déduit l'âge de l'univers. C'est pas des choses mystérieuses. En fait, il faut quand même se poser un petit peu, prendre un petit peu de temps. Mais c'est faisable, tout le monde peut comprendre comment on arrive à sortir des choses qui paraissent quand même complètement inouïes. Comment les petits bons hommes que nous sommes, nous ne sommes pas verts, mais comment on arrive à dire des choses comme ça à l'âge de l'univers? Et tout ça, c'est possible. Et maintenant, bon, à l'issue de Planck, on pourrait dire, est-ce que c'est la fin de l'histoire? Ben, bien sûr que non, c'est pas la fin de l'histoire.
Oui, alors parce que vous avez commencé en disant, votre ambition était d'établir une cartographie définitive de l'univers. Est-ce qu'elle est vraiment définitive?
Oui,
ou est-ce qu'il va y
alors
avoir des,
elle est définitive, mais on a aussi mesuré d'autres choses qui, elles, ne sont pas définitives. On a mesuré une autre propriété de la lumière qui s'appelle la polarisation de la lumière, qui a d'autres informations complémentaires. Et là, c'est plutôt l'équivalent de Kobe, c'est-à-dire c'est la carte d'initiation. Et donc, d'autres satellites ou d'autres expériences vont prendre la main. Et puis, je voudrais rajouter quelque chose d'autre qui est peut-être plus intéressant, c'est que quasiment chaque fois qu'on résout une question, en fait, ça en pose de nouvelles. Parce que la résolution même fait apparaître des choses en disant, mais alors si c'est comme ça, mais alors comment ça se fait que ceci, cela? Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on règle pas pour toujours l'histoire, c'est qu'on est capable de poser les nouvelles séries de questions pertinentes qui, si la technologie est là, on va pouvoir aborder pour traiter de nouvelles grandes questions qu'on n'aurait même pas été capable de formuler précédemment. Parce qu'encore une fois, c'est toujours l'idée, il faut progresser pas à pas. Si vous voulez monter, si vous voulez voir le paysage, il faut avoir grimpé suffisamment haut, il faut commencer à avoir grimpé. Voilà. Donc nous, on a été une génération qui s'est bâtie sur l'épaule des générations précédentes, hein, bien évidemment. Et cet enthousiasme-là, les plus jeunes l'ont pareil. Hein,
c'est-à-dire, voilà. Alors, c'est quoi la prochaine grande question? Alors, vous avez parlé de la polarisation de lumière, c'est ça?
Oui, alors ça, c'en est une.
La prochaine mission Planck, entre guillemets.
Oui, alors ça, c'en est une, mais il y en a une qui est en l'air, qui s'appelle la mission Euclide. Donc, j'ai personnellement poussé pour qu'il y ait la première exposition mondiale d'Euclide se fait à Meymac.
Ah, alors, qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est très simple. Le responsable mondial de l'exposition Euclide, qui comporte 1500 scientifiques, s'avère être dans mon institut, quelqu'un qui a à peu près mon âge. Voilà. Et donc, à un moment donné, quand j'ai discuté avec Philippe Brugère en disant « ça serait magnifique d'essayer de tenter de monter un festival d'astronomie », on a pensé ça pourrait être les 20 ans du parc, tout ça. Et donc, il a fallu trouver de qu'est-ce qu'on allait apporter. Donc, c'est pas compliqué. J'ai été voir le responsable mondial. Je lui ai dit, Yannick, je voudrais monter un truc. Est-ce que tu m'autorises à aller parler à ton chargé de communication? Il m'a dit, oui, vas-y. Quand il est arrivé, je lui ai mis la main sur le rable et je lui ai dit, il faut monter une expo à Meymac. Voilà. Donc, ils ont découvert qu'il était Meymac. Voilà. Après, il faut trouver des gens. Après, je me suis dit, tiens, il y a un autre mec un peu plus loin dans les couloirs. Alain Riazuelo, qui fait des réalités virtuelles de plongée dans le trou noir.
Qu'on a reçu ce matin.
Voilà,
oui.
Alain, donc, que j'ai fait recruter quand même, voilà. Donc, qui est trois bureaux plus loin. Alain, il faut que tu amènes tes casques. Voilà. Alors, tout ça pour dire qu'on essaye de vous offrir un panorama. Et à quoi va servir Euclide? La réponse première, d'une certaine manière, c'est, bon, d'accord, on sait maintenant qu'il y a... de l'énergie noire. On sait combien il y en a, mais on ne sait pas ce que c'est.
Oui.
Alors, bon, vous allez certainement interroger d'autres gens, mais moi, je vais vous donner ma version, parce que j'ai fait partie de ceux qui ont rêvé de cette mission et qui l'ont défendue alors qu'elle n'existait pas encore. Et donc, c'est comment on peut essayer d'en savoir un peu plus? Eh bien, en gros, l'idée est assez simple, c'est de dire, finalement, cette énergie noire, comment elle varie en fonction du temps, quelle est sa quantité, ou plus exactement la contribution à l'énergie totale de l'univers, de l'énergie noire, en fonction du temps. Après, ça va être compliqué. Je vais pas.
Juste pour comprendre, l'énergie noire, en gros, c'est une donnée qui est issue de la théorie et qui, en calculant, on s'aperçoit qu'il devrait y avoir une certaine quantité d'énergie qu'on ne voit pas. C'est ça, c'est un peu.
Oui, alors c'est plus exactement. Non, c'est il y a d'abord des faits observationnels et on se rend compte que pour les décrire dans, à l'intérieur d'un modèle, il faut qu'il y ait une composante qui ait les propriétés un peu mystérieuses d'une énergie noire. Voilà. On en sait un certain nombre de choses. On sait que cette composante-là fait s'étendre l'univers d'une manière qui est un peu inattendue. Comment on peut en savoir un peu plus ? Eh bien, on essaye de savoir comment elle varie dans le temps, cette quantité d'énergie. Parce que ça, c'est tout le reste varie. La quantité de rayonnement dans l'univers varie au cours du temps. La quantité de matière varie au cours du temps. En fait, tout ça varie. Et donc, l'idée de Euclide, essentiellement, c'est de trouver des moyens, que je ne décrirai pas maintenant, mais de mesurer la variation au cours du temps de la quantité d'énergie noire et donc à partir de là, de donner des contraintes nouvelles sur les modèles possibles. Et là, une fois de plus, retour vers les théoriciens. Quels sont parmi les modèles ? Là, ils ont fait pareil, un atlas, hein, il y a des centaines de modèles. Eh bien, ça va être... on n'est que des destructeurs, hein, nous. On ne vous donne pas la vérité, on tue des modèles. Voilà, notre job... C'est des destructeurs d'idées, de belles théories. On passe notre vie à critiquer.
Et de temps en temps, il y en a une qui survit, c'est ça ?
Et il y en a une pendant un certain temps. Voilà, donc tout l'objet, c'est une critique perpétuelle, constante de tout le monde, avec un seul impératif. La plus belle théorie qui soit doit être immédiatement abandonnée si elle est en contradiction avec un fait observationnel quelconque. Penser à ça sur après tous les délires qu'il peut y avoir des uns et des autres qui ignorent la réalité. Notre obligation de scientifique, c'est la nature est notre maîtresse absolue. Et donc, voilà, on construit des modèles qui décrivent les observations et puis quand il y en a une qui ne colle pas, on jette. Et du coup, on progresse parce que du coup, on a tout un tas d'éléments dont on se dit, à chaque fois, on est obligé de les garder parce qu'ils décrivent tellement bien. Si je vais vous dire, par exemple, on a construit la théorie de l'électromagnétisme. Depuis, on fait des ordinateurs, on fait des antennes, on fait tout ce que vous voulez. Bon, ça fait plus d'un siècle où on fabrique des tas d'objets de toutes les sortes possibles et imaginables, et ça marche. Donc, et là aussi, il y a un point que je vais en profiter pendant que je tiens le poste.
Allez-y.
C'est que ce qui se passe, quand est-ce qu'on change de modèle ? C'est qu'en général, on commence à explorer une partie plus vaste de la réalité. C'est-à-dire que tout d'un coup, on commence à les regarder dans un coin qu'on n'avait jamais regardé jusqu'à maintenant. Et on se dit, pour pouvoir arriver à décrire aussi ça, il faut modifier un petit peu. Donc, si je prends l'exemple de la gravité, quand on remplace la gravité de M. Newton par la relativité de M. Einstein, les pommes ne se sont pas mises à tomber de manière différente. Et la relativité et la description de la gravité par M. Newton est restée valable pour décrire les pommes. Simplement, quand vous voulez décrire d'autres objets, par exemple des trous noirs, Newton ne suffit pas. Mais ça n'empêche pas, Newton reste valable. C'est-à-dire quand on remplace un modèle, on ne jette pas tout, ce n'est pas ça. C'est simplement qu'on dit, si on veut capturer, décrire, représenter de nouveaux pendants de la réalité, alors il faut enrichir le modèle. Donc c'est ce qu'on fait. Et donc quand un modèle n'est pas assez riche, quand on découvre un nouveau fait, on le jette.
Il faut savoir poser les bonnes questions en fait.
Et ça c'est précisément, on fait de nouvelles expériences qui nous décrivent, qui éclairent un nouveau pan du réel. C'est pour ça qu'on pousse les plus hautes énergies, les temps les plus courts, les densités les plus grandes. Enfin qu'on pousse toujours parce que ça c'est là qu'on va trouver les failles. Ce qui demande à être amélioré, et alors de ça on ne sait pas ce qui sort, parce que quand on a un nouveau modèle du coup on se rend compte que ça prédit tout un tas de trucs nouveaux. Le laser, c'était pas quelque chose qui était prévu, c'est simplement on avait fait des choses et puis on s'est rendu compte qu'avec ça on va pouvoir mettre, sans décrire l'état de laser, on va pouvoir fabriquer un laser. Et puis, les lasers, maintenant, c'est partout, y compris quand on fait des observations à Mémac et qu'on veut pointer les étoiles, on utilise un sabre laser. Voilà. Enfin, sabre,
on a hâte de voir ça.
Voilà.
Merci. pour cet exposé voilà, qui nous a fait voyager vraiment loin, loin, et il y a longtemps aussi.
Voilà, et à des énergies phénoménales, ouais. Des temps courts, longs, etc. Je vous ai convié donc à un voyage aux confins de l'espace et du temps, mais nous en sommes revenus.
Et bien voilà. on va tenter de se remettre un petit peu de ce voyage. On passera à un prochain invité. On va continuer en musique. Merci François Boucher. Et on vous souhaite une bonne fin de festival, une bonne fin de fête. Et on va. Oui, attendez. Oui.
Oui, demain, j'anime une table ronde avec Jean-Loup Chrétien, donc le premier homme dans l'espace français.
Qu'on a reçu.
Karim Benabed, qui parle de la mission Euclide. Alain Riazuelo, qui vous parle de la plongée dans un trou noir. Moi-même. Daniel Kunt, qui vous a. Donc, tous ces gens-là, nous allons discuter, de toutes les saloperies que les humains font au ciel. Donc, en fait, la pollution lumineuse, les débris spatiaux et la militarisation de l'espace. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, venez nous écouter
à 11h30.
À 11h30, et éventuellement dialoguer avec nous au cinéma Soubise.
Voilà, on vous invite tous demain à 11h30.
C'était le petite minute de publicité. Nous vous remercions.
Bon, merci. Et puis j'espère qu'on recevra Karine Benabed dans la suite du programme, parce que comme ça, on aura presque eu tout le monde.
On va essayer. On va essayer.
Notre petite table ronde à nous.
Voilà. Alors, on va se quitter. On va se quitter avec Richard Cochant qui chante comme la nuit.
Par un monde infernal, divagant de solitude, il chercha un autre idéal pour porter l'incertitude.
et c'était Dalida, Femme et la nuit. Vous êtes toujours sur Radio Vassivière. Et si vous êtes avec nous à Memac, vous nous écoutez peut-être sur le 103.1 ou peut-être vous vous rapprochez de nous et vous nous écoutez comme ça directement. C'est ce que fait Lionel, par exemple.
Oui, il reste une chaise. Voilà. Et s'il y a un auditeur ou une auditrice qui veut venir,
n'hésitez
il y a une
pas à
chaise
venir.
Encore.
Voilà, et donc je suis accompagnée de la douce voix de Raphaël.
La très douce voix.
Exactement.
Et voilà, bon, on continue cette émission donc consacrée à la nuit, à l'occasion des 20 ans du Parc Naturel Régional. Voilà, on vient de laisser François Boucher retourner aux festivités et on a le plaisir d'accueillir maintenant Olivier Villa. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Olivier, vous êtes animateur Natura 2000 rattaché au PNR, c'est ça ?
C'est ça, donc je suis un agent du parc.
Et on va parler avec vous, on va essayer de faire un petit panorama de ce qui se passe la nuit au niveau de la biodiversité, de cette fameuse biodiversité dont on parle pas mal depuis tout à l'heure. On a évoqué le fait que la nuit, c'est forcément pas très connu puisqu'on est censé dormir, l'être humain est pas beaucoup dehors. Donc c'est peut-être un univers qu'on connaît peu. Alors déjà même de jour, on connaît pas forcément bien toute la faune. La faune diurne, mais alors la faune nocturne, c'est à part dans les livres un peu un mystère. Donc on va essayer de faire un petit portrait peut-être du plateau de Mille Vaches la nuit avec vous.
Bien volontiers. Alors un portrait de la faune nocturne, c'est une gageure puisque, comme vous l'avez dit, ce sont des animaux qui sont nocturnes précisément parce que ça leur permet, pour bon nombre d'entre eux, de se soustraire à l'observation et donc à la prédation. Donc l'observation que ce soit par l'homme ou par leur prédateur. Donc observer la faune la nuit, ça suppose de savoir un peu déjà ce qu'on va chercher, de pas y aller au hasard. Et puis plutôt que d'y aller en plein milieu de la nuit, en plein cœur de la nuit, qui est le moment peut-être le plus mystérieux que peu de monde connaît finalement, on va préférer sortir à la lisière entre le jour et la nuit, au crépuscule, à l'aube. Là, c'est vraiment les moments où les espèces s'activent et où se croisent les espèces diurnes et les espèces nocturnes. Et ça donne l'impression que, précisément, c'est un moment que ces deux grandes catégories d'espèces privilégient pour s'activer, comme si elles étaient étonnées de se croiser dans un même lieu. Donc ça, le crépuscule, ça va durer quelques dizaines de minutes. Vous allez avoir les oiseaux diurnes qui vont chanter éperdument. Et puis bien souvent, quand la dernière grive va lancer sa dernière strophe, vous allez patienter quelques minutes et puis là, vous allez entendre les premiers chants de chouette. Donc la succession se fait tous les jours dans cet ordre-là. Et puis on rentre dans le monde de la nuit qui est quand même nettement plus silencieux que ce cœur symphonique du crépuscule, mais qui va nous donner l'occasion de contacter une à une ces espèces. Alors ces espèces, quelles sont-elles ? Bon, pour les plus connus, ça va être bien sûr les oiseaux nocturnes, les chouettes, les hiboux. Ces espèces, elles ont des adaptations à la fois pour repérer leur proie, puisque ce sont des espèces prédatrices, et aussi des adaptations pour ne pas être repérées de leur proie. Pour repérer leur proie, elles vont avoir une ouïe très très fine, avec une dissymétrie de leur conduit auditif, qui leur permet de percevoir les sons, si on prenait une image, en relief. Pour localiser dans l'espace leur proie, elles ont cette petite adaptation qui permet de, en quelque sorte, de trianguler et de repérer très précisément déjà à l'ouïe où se situe leur proie. Chouette et hibou ont aussi, vous l'avez remarqué, des yeux surdimensionnés, très fortement dotés en cellules photosensibles. Ce sont des oiseaux qui voient très bien la nuit. Et puis, ça ne fait pas tout, puisqu'une fois qu'on a repéré la proie, il faut pouvoir la capturer. Et donc, afin de capturer en silence leur proie, puisque vous imaginez bien que le sens de la vue, que ce soit chez les prédateurs ou chez les proies, même s'il est fortement développé, on reste dans une ambiance nocturne, donc il faut que ces animaux compensent cette obscurité ambiante par les autres sens. Donc les proies, donc les petits mammifères, les proies des chouettes et des hiboux ont une ouïe qui est très fine. Par exemple, le mulot, on voit la taille des oreilles. Si bien que pour déjouer ce sens auditif très développé chez leurs proies, eh bien les chouettes et les hiboux ont une adaptation au bord de leur plume de vol qui consiste en une forme de duvet qui amortit le frottement de l'air sur la plume, et ce qui leur confère un vol parfaitement silencieux. Donc vous avez peut-être eu la chance comme ça de croiser un hibou moyen duc. C'est vrai que souvent il nous surprend là au clair de lune. Vous vous rendez compte qu'il vous survole simplement parce que vous avez une ombre dans la nuit là qui plane au-dessus de vous. Et ça c'est très pratique pour eux pour capturer leur proie. Donc voilà bien sûr les rapaces nocturnes. Vous avez aussi un autre groupe de nocturnes qui est celui des chiroptères. Donc chiro, c'est la main, ptère, c'est l'aile. Donc ça vous évoque peut-être un animal qui porte une aile sur sa main, c'est la chauve-souris, Batman. Donc la chauve-souris, elle est encore plus adaptée à l'évolution aérienne de nuit, encore plus adaptée que les rapaces nocturnes, puisque elle se déplace en forêt grâce à un système qui s'appelle l'écholocation. Donc elle émet des ultrasons qui ensuite lui reviennent par écho. Et c'est grâce à cet écho qu'elle se forme une image de son environnement, qu'elle évite les troncs d'arbres, qu'elle passe sous les branches et qu'elle repère ses proies. Donc quand elle repère une proie, elle émet de plus en plus de sons, une fréquence de plus en plus élevée. Elle focalise ses émissions sur l'insecte qu'elle a repéré, de façon à la repérer parfaitement et à capturer l'insecte. Donc les chauves-souris, dans le parc, on compte à peu près 25 espèces, donc ce qui est quand même conséquent. On a la chance d'avoir des milieux forestiers encore assez riches en insectes et donc assez riche en chauves-souris. Donc voilà deux grands groupes de vertébrés adaptés à la vie nocturne. Après, vous avez beaucoup de vertébrés qui ne sont pas franchement nocturnes, par exemple des mammifères comme les cervidés, mais qui sont devenus franchement nocturnes à mesure qu'ils étaient poursuivis par l'homme depuis des milliers d'années, depuis que l'homme chasse. Un des moyens que ces espèces ont trouvé pour se prémunir de la chasse par l'homme, c'est de se réfugier dans la nuit. Puisque vous l'aurez sans doute remarqué, quand vous croisez des chevreuils ou des cerfs en roulant de nuit, les phares allumés sur la route, la première chose que vous remarquez, c'est des yeux brillants. Voilà. Et si vous croisez un homme, malheureusement, vous n'avez pas ce regard qui permettrait de le repérer. Donc ça, c'est dû au fait que le fond de l'œil de ces cervidés, de ces ongulés, mais les renards aussi, les petits carnivores ont cette adaptation. Ce fond de l'œil qui est tapissé par une substance qui s'appelle le tapetum lucidum. Ce sont des cellules qui amplifient les signaux lumineux et qui leur permettent de voir de nuit, dans une forme de gris clair, leur environnement. Donc toutes ces espèces ont une vision nocturne qui est très, très développée, en tout cas bien plus que celle de l'homme. Donc ça leur permet d'être en alerte et de repérer, par exemple, un homme qui les approcherait sans que l'homme, lui, ne puisse repérer ses proies potentielles.
Et ça, donc, c'est une adaptation récente. Donc, ils ont développé cette capacité, disons, cette particularité depuis qu'ils sont devenus nocturnes, c'est ça ?
Alors non, c'est une adaptation qui remonte à plusieurs centaines de milliers d'années avant qu'elle ne soit chassée par l'homme. En revanche, dans des milieux fortement peuplés par des humains, ces espèces qui sont alors avant tout crépusculaires, comme les oiseaux dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui peuvent être aussi bien diurnes que nocturnes, eh bien, se sont spécialisés dans un mode de vie plutôt nocturne. À l'origine, ce sont des espèces qui sont à la fois diurnes et nocturnes. Mais pour éviter de croiser des humains, elles sont devenues, dans les pays peuplés, franchement nocturnes. Bon, la preuve qu'elles peuvent être aussi bien diurnes que nocturnes, c'est que dans des régions comme le plateau de Millevaches, d'ailleurs, aujourd'hui, qui sont de moins en moins peuplées par les humains, avec une pression de chasse qui tend quand même à diminuer et qui, en tout cas, est très saisonnière, avec peu de braconnage ou de chasse estivale, bon, ben, c'est vrai qu'on a des espèces qui redeviennent... qu'on se remet à voir de jour, alors que on pouvait, il y a quelques décennies, les considérer comme franchement nocturnes. Là, je pense par exemple au blaireau. Le blaireau qui nous fallait chercher de nuit il y a même encore 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, au printemps, il n'est pas rare du tout d'en observer en plein jour.
Voilà, on a fait presque le tour des animaux nocturnes. Il y en a d'autres encore.
Non, alors après on a les batraciens également, les batraciens qui sont volontiers nocturnes, parce que c'est pareil, hein, ce sont des animaux assez peu mobiles, très vulnérables à la prédation, notamment par les oiseaux, hein, qui peuvent repérer un crapaud ou une grenouille très facilement depuis leur perchoir. Donc ces animaux, ils vont, au moment de se reproduire, eh ben, se regrouper et chanter, surtout, principalement, durant la nuit. D'où les concerts de grenouilles que vous connaissez tous. Aussi, le petit chant flûté, là, qui fait une sorte de... Voilà, que vous avez peut-être entendu déjà dans les villages, là, sous les pierres, les seuils des portes. Ça, c'est l'alite accoucheur. C'est un petit crapaud qui a la particularité de... suivante, qui est que le mâle alite accoucheur transporte les œufs. Donc la femelle pond les œufs et ensuite c'est le mâle qui porte sur son dos les œufs et les met à l'abri des prédateurs. Donc pour attirer la femelle, le mâle il chante la nuit dans les villages. Donc en ce moment vous l'entendez sans doute dans à peu près tous les petits hameaux du plateau.
En fait il réclame des œufs.
Il réclame des œufs. D'abord une femelle et ensuite les œufs.
Voilà, on fait un paysage riche, un paysage alors pas toujours secret, puisqu'on y a la partie sonore, c'est vrai qu'on les voit pas, mais on les entend quand même. En tout cas, les sons qu'on a décrits sont aussi familiers. Peut-être c'est peut-être même la chose la plus familière, le rapport le plus familier qu'on ait avec la faune, au final, l'aspect sonore, parce qu'on les voit très peu.
Oui, 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 c'est vrai que le contact avec la faune nocturne se fait essentiellement à l'ouïe. C'est tout à fait ça. Après, on peut aussi être interpellé pendant la nuit par des émissions sonores indirectes. Par exemple, bien sûr, le bruit d'un pas sur des feuilles sèches. Voilà, le bruit de courses d'ongulés en sous-bois. Voilà, toutes sortes de sons qui peuvent effrayer, mais avec lesquels on se familiarise assez vite. Ça peut être au bord de l'eau, pour peu qu'il n'y ait pas de vent, les petits clapotis d'une loutre qui chasse, qui poursuit des poissons ou des grenouilles. Voilà, tout ça fait que l'homme lui-même, quand il se déplace dans la nuit, devient bien plus attentif à l'ambiance sonore.
Et alors, vous promenez la nuit pour observer ? C'est une pratique que vous avez
Oh, ça m'arrive. Je ne suis pas un assidu de la pratique, mais en effet, ça m'arrive. Par exemple, bon, là, c'est plutôt mon collègue Robin là, qui mène les enquêtes naturalistes depuis quelques années. Et en ce moment, là, il fait pas mal de sorties nocturnes, donc au cœur du plateau, dans les secteurs de Saint-Merlet-les-Oussines, Perlevade, Chavanac. Et parce que tous les 3 ans, donc cette année en est une, on recense les engoulevents d'Europe. Donc l'engoulevent d'Europe, c'est un oiseau qui ressemblerait un peu à un coucou, de la taille d'un pigeon, de la taille d'un faucon cresserelle à peu près. Et donc l'engoulevent, lui, c'est un crépusculaire qui se nourrit de gros insectes, par exemple des papillons de nuit. Donc en ce moment, mon collègue Robin part entre chien et loup pour essayer d'entendre le chant de l'engoulevent.
C'est un chant, je crois, assez particulier.
Ouais, ça fait une sorte de... comme ça, voilà. Donc ça, c'est l'engoulevent d'Europe. Et ben, il compte les chanteurs. et aussi les oiseaux qui l'observent en vol. Donc il passe deux fois, il a des circuits de 6 km sur lesquels il passe deux fois entre mai et juin. Et puis ensuite on retient le plus grand nombre d'oiseaux observés. Et donc on répète cet inventaire tous les 3 ans, ce qui nous permet de connaître l'évolution des populations.
Et donc à part la balade nocturne, on voit bien que c'est un moyen assez efficace pour observer d'une manière ou d'une autre la faune nocturne. Il y a d'autres techniques qui permettent, je sais pas, de faire des comptages ou des observations éthologiques.
De plus en plus. Habituellement, je sais que les fédérations de chasse réalisent pas mal de comptages de cervidés et d'ongulés au phare, justement en utilisant cette propriété des yeux, des ongulés qui reflètent la lumière. Donc c'est pratique pour compter dans les prairies avec un phare les ongulés. Donc ça permet d'estimer les populations de cervidés notamment. Alors de plus en plus, ce qui se développe, c'est l'enregistrement automatique des sons nocturnes avec un traitement informatique. Une fois qu'on a récupéré les enregistrements sonores sur un ordinateur, on lance des logiciels qui permettent de séquencer les sons enregistrés et même de les identifier. Alors un peu dans le même ordre d'idée, on a, vous le savez sans doute, de plus en plus d'échantillonnages par appareils photo automatiques qui détectent les mouvements et photographient les espèces de passage. C'est comme ça, par exemple, que
il semblerait qu'il y en a finalement, il y en a peut-être plusieurs, oui.
Les deux fois un c'est loup ça. Qui ont fréquenté le plateau de Mille Vaches ont été détectés. En tout cas pour le premier. Le deuxième, je ne pense pas qu'il ait été photographié pour l'instant par un piège automatique. Mais c'est vrai que c'est très efficace puisque ces appareils photo travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et la nuit, ils attestent bien qu'il y a une activité nocturne intense sur nos pistes forestières notamment.
Alors avec toutes ces études, toutes ces observations, qu'est-ce qu'on peut dire de l'état de santé de la faune nocturne sur le plateau de Mille Vaches ?
Bon, l'état de santé, c'est il faudrait quand même analyser très finement parce que c'est sûr que les techniques existent, mais il faut quand même des hommes derrière et des femmes bien sûr pour poser les pièges photos, relever les enregistreurs. Donc, on pourrait groupe d'espèces par groupe d'espèces, proposer des tendances. Les chauves-souris, par exemple, elles se portent plutôt bien sur le plateau parce qu'on a encore de belles forêts feuillues, notamment des belles forêts dans les vallées de la Vienne, vallées de la Vézère, vallées de la Luzège. Voilà, toutes ces forêts feuillues, étendues, qui forment des corridors de boisement le long des ruisseaux, des rivières. Alors là, c'est vraiment des espaces qui sont très riches à la fois en insectes et en chauves-souris. En revanche, on constate que les densités de chauves-souris sont moins importantes dans les plantations résineuses monospécifiques. Ça, c'est une étude que Michel Barato, un spécialiste français des chauves-souris, a conduite et dont les résultats sont probants.
C'est dû à quelle raison ? Il y a moins de cavités, il y a moins de...
Oui, puis ce sont des forêts qui sont beaucoup plus jeunes et puis elles sont souvent coupées en bloc. Et donc, vous n'avez pas le temps d'avoir des cavités qui se développent dans les arbres. Or, c'est dans ce type de cavité que les espèces gîtent. Vous avez des densités d'insectes qui sont moindres parce qu'il y a moins de bois mort à décomposer et ainsi de suite. Donc, ce phénomène-là, il est observé. Ensuite, les comptages de cervidés montrent que la population se maintient. Il n'y a pas de signaux d'alerte qui nous inciteraient à penser que les populations baissent. Les engoulevents, ils se portent plutôt bien, même s'ils ont mal vécu les périodes, les quelques années, la 2012 à 2015, où on a constaté une baisse des effectifs. C'était un peu comme cette année, des années très pluvieuses, donc très défavorables aux espèces qui nichent au sol, et l'engoulevent, il niche au sol. Les rapaces nocturnes, ils sont présents, mais quand même avec des densités faibles. C'est un peu comme pour les chauves-souris, on a des forêts qui manquent d'arbres à cavité. On a constaté qu'on avait 3 à 4, on va dire entre 2 et 4 arbres creusés par le pic noir pour 100 hectares de forêt. Or, pour une espèce comme la chouette de Tingmalm, voilà, les études montrent qu'il faudrait avoir au moins 10 arbres à cavité aux 100 hectares. Donc, on est 3 fois en dessous du niveau qui serait intéressant pour cette chouette. Donc voilà, la situation est contrastée. Et puis après, on voit également assez peu de hérissons, par exemple, la nuit, dans les phares de la voiture.
Voilà, je crois que ça tombe bien. Je crois qu'il y a Lionel qui a pris le micro, qui avait une question sur les hérissons.
Ouais, Olivier, justement, j'avais la question sur les petits mammifères, et notamment le hérisson. Moi, c'est mon animal totem, en fait. Hein. J'adore le hérisson, donc... comme ça, hein, très amicalement, enfin... Je vais pas le manger, hein, bien sûr.
Et pour ceux qui connaissent pas Lionel, c'est vrai, il ressemble un peu à un hérisson, mais très très grand.
Ouais, si tu peux nous parler du hérisson, j'adore.
Ah, le hérisson, le hérisson, c'est un mammifère insectivore qui est tributaire de la présence de nombreux vers, de nombreux insectes dans les jardins, notamment. C'est une espèce d'élisière, des forêts claires. Et alors, lui, ce qu'il supporte mal, ça va être le cloisonnement de l'espace, les clôtures, voilà, la multiplication des clôtures autour des jardins. Ça lui est très défavorable. Même si j'ai un voisin qui m'a dit qu'il avait une fois eu un hérisson qui était rentré dans son parc à chiens. Et pour lui, il n'avait pas pu faire autrement que de grimper le long de la clôture. Donc, c'est une anecdote intéressante. Après, on sait que le hérisson apprécie les œufs, le lait, donc il côtoie l'humain, c'est sans doute ça qui le rend sympathique. Et puis malheureusement, ben, voilà, on le constate tous, il est victime du trafic routier. Voilà, il est aussi une des proies du Grand-Duc, mais bon, les populations du Grand-Duc sont relativement faibles, donc c'est pas lui qui fait diminuer les populations de hérissons.
Merci.
Peut-être en as-tu dans ton jardin, Lionel ?
Ah ouais, ouais, bah ouais, ouais. Ah oui, justement, il faut favoriser aussi les tas de branches... Les tas de bois en décomposition, enfin voilà, les abris en fait, hein, la présence des abris est importante. Il faut laisser des abris dans le jardin. Ouais.
Et est-ce qu'on a des espèces, alors il me semblait que c'était le cas du hérisson, mais qui hiberne ou hiverne, hein, des deux?
Oui, tout à fait. Le hérisson, il hiberne, le loir, le lairot, voilà, qui sont des espèces forestières aussi, qui sont des espèces qui hibernent. Les chauves-souris aussi hibernent, bien entendu. Donc là, c'est assez intéressant parce que les chauves-souris, elles vont giter, par exemple, dans des greniers. Donc pendant l'été, vous allez les trouver dans les greniers. C'est leur gîte de mise bas. Et puis en hiver, elles vont complètement changer de lieu pour hiberner. Puis là, vous allez les trouver dans des caves, dans des tunnels, dans des constructions massives comme des barrages.
Donc plutôt dans des environnements anthropisés, alors, du coup.
Plutôt, oui, ouais, tout à fait. C'est une adaptation ou c'est comment... Oui, c'est une adaptation. C'est l'homme, comme souvent, hein, qui a créé des habitats que les espèces ont appréciés et qui correspondent à leurs exigences. Alors, c'est un problème, d'ailleurs, avec les rénovations, on a tendance spontanément à obstruer les cavités. Et c'est vrai que dans les maisons, souvent là, les maisons traditionnelles qui se vendent, hébergent des espèces au moment de la vente, et puis après, la rénovation se fait et ces espèces disparaissent de la maison, que ce soit des chouettes, des chauves-souris ou toutes sortes d'animaux.
C'est que les lairots, on n'a pas spécialement envie de les avoir.
Voilà, bien sûr.
Dans l'isolation.
Ouais. Ouais. Alors après, on peut faire des gîtes pour les espèces, une fois qu'on sait quelles sont les espèces qui fréquentaient la maison. Alors autre chose, nos amis les chats entraînent aussi des pertes massives dans le petit peuple des animaux qui fréquentent nos maisons. Alors là, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Peut-être avoir moins de chats, oui. Non, même si on les nourrit bien, ils restent prédateurs dans l'âme.
Alors j'ai une astuce, le mien est extrêmement bête et ça marche très bien. Il est incapable de chasser.
Donc, n'instruisez pas vos chats. Faites-les regarder la télé ou je sais pas. Ou, voilà.
C'est ça.
On a une idée d'ailleurs de l'ampleur un peu des dégâts causés par le chat sur les oiseaux. C'est chiffré ça ? Parce qu'on on entend souvent parler de ça, mais j'ai jamais vu de.
C'est chiffré, mais j'aurais du mal à vous le dire. Bon, c'est toujours pareil. Il suffit d'observer ces chats et bon, un chat va capturer. On va le voir capturer plusieurs oiseaux dans l'année sans difficulté, notamment au moment où les jeunes s'envolent. C'est rare pour les propriétaires de chats qui ne vous ramènent pas un petit rouge-queue ou une petite mésange. Donc l'impact se chiffre vraisemblablement entre quelques unités, voire pour les meilleurs chasseurs, peut-être quelques dizaines d'oiseaux par an.
Voilà. Bon, on va arrêter d'accabler ces pauvres chats. Sinon, l'humain fait déjà pas mal de dégâts. Il n'a pas besoin des chats.
Ça.
Mais peut-être le chat est aussi une conséquence de l'humain. Donc,
C'est ça. Je pense qu'ils s'inspirent de leur maître.
J'avais une question sur le milieu un peu plutôt troglodyte, enfin les cavernes. Parce qu'en fait, c'est la nuit, même le jour. Est-ce que sur le plateau de Mille Vaches, on est une zone à cavernes ?
Ben non, le plateau, c'est pas une zone à caverne. Ouais. C'est pour ça que les espèces cavicoles, on va les trouver dans des aménagements faits par l'homme. Donc j'évoquais les barrages. Il y a aussi quelques mines qu'on peut trouver ici ou là sur le plateau. Alors par contre, ce qu'on va trouver, c'est des abris sous roches. Ça arrive, hein, sous des boules de granit. Oui, ça m'est arrivé de trouver des gîtes naturels, en cavité naturelle, plutôt sous abri sous roche, des gîtes à petits rhinolophes. Voilà, donc c'est une chauve-souris qu'on rencontre dans les caves. Donc on a quelques abris sous roche qui hébergent ces espèces, mais non, on n'est pas du tout une région à caverne ici.
Merci.
Alors, pour un peu pour conclure, là, vu qu'on parlait, on a beaucoup parlé de réserves internationales, de ciel étoilé, de vie nocturne, de trame noire, ça on n'en a pas parlé, mais c'est un peu une conséquence de la réserve. Est-ce que ça a un impact visible donc sur la biodiversité ici ? Vous avez pu constater des choses un peu
Alors on l'étudie. Bon, les conclusions sont pas encore établis, puisque ben là encore, hein, c'est des travaux qui nécessitent de comparer une situation avec éclairage nocturne et une situation sans éclairage nocturne. Le souci, c'est que selon où vous étudiez les espèces, vous allez avoir d'autres paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Ça peut être la nature du couvert forestier, ça peut être la proximité d'une prairie riche en insectes. Donc, je dirais que sur le plateau de Mille Vaches, ça, c'est pas bien établi. En revanche, voilà, il y a quand même des données bibliographiques qui servent de référence aujourd'hui et qui, oui, montrent que l'activité de pas mal d'espèces est perturbée par l'éclairage nocturne. Que ce soit des chauves-souris qui peuvent être favorisées par l'attraction que la lumière artificielle exerce sur les insectes. Donc là, on pourrait se dire que ça va avoir un effet plutôt positif. Mais ce qui est un effet positif sur l'alimentation ne l'est pas forcément sur les paramètres de reproduction ou sur les paramètres aussi de survie contre les prédateurs. Hein, c'est ce que j'expliquais. L'adaptation des espèces nocturnes est lié à leur faculté d'éviter les prédateurs diurnes. Et le cycle nocturne reste respecté. Hein. Une espèce nocturne ne devient pas diurne, elle. À l'inverse...
Enfin, dans ce sens-là, ça
ne marche pas. En revanche, comme je le disais, une espèce diurne peut investir le domaine nocturne. Et par exemple, si vous prenez la cathédrale de Limoges qui héberge un couple de faucons pèlerins, ben on se rend compte que le couple de faucons pèlerins arrive à capturer des espèces qui migrent de nuit. Par exemple, il y a un râle déjeuner qui a été trouvé au pied de la cathédrale de Limoges, capturé par un faucon pèlerin. Donc ça, c'est clairement un râle qui migrait de nuit, qui a sans doute été attiré par ou plutôt déboussolé par le halo lumineux de Limoges. Il a traversé la zone claire au milieu de la nuit et il s'est fait croquer par le faucon pèlerin. Donc là, voilà, on a cet effet de report de prédation par des espèces diurnes dans le cœur de la nuit. Donc ça, ben forcément, ça impacte la survie de petites populations locales dans les lieux éclairés.
Oui, globalement, l'idée, c'est que si plus on les laisse tranquilles, mieux ça se passe. Quoi. Ça se débrouille entre soi et les équilibres se font plus facilement sans l'homme, quoi, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Alors sur le plateau de Millevaches, ça paraît, c'est vrai qu'on a une telle étendue de nuit sur de telles surfaces que, à vrai dire, le problème n'existe pour ainsi dire pas. Mais dans des régions plus urbanisées, c'est certain que vous avez des immensités qui ne sont plus noir pendant la nuit, et ça, oui, ça c'est problématique.
Oui, et ben, c'était Justine. Dans ce passionnant.
Oui, je crois qu'on va rester avec cette image, Lionel. Ouais.
Surtout des très belles imitations. Hein. J'adore.
C'est vrai, moi j'en aurais voulu d'autres, mais j'ai. Ah, voilà, Lionel aussi.
Lionel.
Ah, ça, c'était un Lionel, c'est ça ?
Ouais.
La courtilière.
Une courtilière, c'est ça. On fera un jour une émission avec des imitations, un blind test biodiv.
Ouais, ça serait trop bien.
Avec plaisir.
Et ben, merci Olivier Villa. Et puis on vous souhaite une bonne fin de fête des 20 ans du parc.
Et oui.
Merci, à bientôt.
Anniversaire à tous les blaireaux et tous les hérissons.
Et allez, on va faire une petite pause musicale et puis on revient peut-être pour conclure cette émission. Alors je vais trouver, voilà, ça.
C'est ma frangine en noir, celle que j'appelle bonsoir. C'est un gars qui a son bien dans le bistrot du coin la nuit. C'est le bourgeois qui se profile sous l'œil des filles de ville, qui croit que c'est arrivé et qui paie pour monter la nuit. C'est cette dame qui s'en va donner sa langue au chat et mêle à ses dentelles la tendresse des gamelles la nuit. C'est un amour qui meurt aussitôt qu'il se fait, c'est mille ans de bonheur dans un baiser vite fait. C'est cette môme qu'a perdu la seule fleur qu'elle avait et qu'attend dans la rue des fois qu'on la retrouverait la nuit. La nuit. C'est le soleil du soir qui enfile son peignoir dans son arrière-boutique sous des becs électriques la nuit. C'est le voleur qui va faire des heures supplémentaires et qui est pas tatillon sur les allocations. C'est cet homme qui s'en va, sa Rolls au bout des bras, et mêle à ses ficelles le trésor des poubelles la nuit. C'est des chevaux qu'on emmène au derby des côtelettes, des moutons qui se promènent du côté de la Villette. C'est un soldat traqué à sa dernière ronde et qui compte les années comme on compte les secondes. Copine qui vend ce que d'habitude on prend et qui pour s'en souplu se met sans dessous dessus la nuit. C'est un chouette courant d'air pour les amours pas chers, un petit hôtel furtif pour les mini tarifs la nuit. c'est le mec qui transite tout, sauf de l'eau bénite, et mêle assez au quai, parfum du Beaujolais. La nuit, c'est cet homme qui se promène la nuit, en plein midi, et sa canne qui l'entraîne dans les autos de Paris. C'est cet homme qu'a pas vu la pitié qui passait, et qu'attend dans la rue des fois qu'on lui inventerait le jour. Le jour.
Et voilà, on est de retour à Mémac, aux accents de la nuit par Léo Ferré. Et on est de retour, on va conclure un peu cette émission.
Quelle aventure, Raphaël,
ce
cette journée.
Le long direct, à l'occasion des 20 ans du PNR.
On est parti loin, jusqu'aux origines de l'espace et de l'univers.
Alors, on a exploré la nuit avec les chouettes Tegmalm, avec... les étoiles, avec les astronomes aussi, beaucoup d'astronomes.
Mmh. C'est vrai qu'on est aussi parti tout près. Hein.
On est parti près, loin.
On parlait des forêts environnantes.
Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir sur ce festival ? Donc, vous pouvez venir à Mémac, ça bat son plein d'ailleurs. Les gens commencent à arriver vraiment plus en masse. Il fait meilleur. Hein. Il ne fait pas encore du soleil, mais ça y est, il fait plus froid, c'est plus l'hiver.
J'aperçois un peu de bleu, je crois.
Il y a presque un peu de bleu.
Ouais.
Alors, il nous reste. Donc, il est 15h43. Alors, on ne peut plus aller à la conférence 20 hémoglobine et cosmos.
Non, et puis là, le temps qu'ils y arrivent, ça va être short.
Ah, ça va être trop court. Donc, 16h30 à 16h30, conférence « Il était une fois la nuit » par Carole Reboul, qu'on a eu le plaisir d'accueillir ce matin, qui est donc photographe.
Qui fait des superbes photographies.
Ouais, et on en a vu. Alors, c'est juste derrière nous. On vous conseille d'aller voir l'exposition, peut-être avant d'aller voir la conférence, des tirages vraiment fantastiques, quoi, sur des grands tirages d'une précision assez extraordinaire. Donc, qui photographie les étoiles, la nuit, la faune.
Et alors, par contre, il va falloir faire un choix, puisque cette conférence dure 1h15, mais à 17h, il y a aussi une autre conférence, qui est aussi la conférence d'un des intervenants qu'on a interviewé de ce matin. C'est Alain Riazuelo, et il fait une conférence sur voir et entendre les trous noirs. Voilà, il est chercheur au CNRS. Donc voilà, vous avez un peu deux approches. Une approche plus artistique, une approche plus... quoi ?
Scientifique.
Scientifique ?
Scientifique, on peut le dire.
On peut le dire, ça oui. Va alors.
Alors voilà, pour aujourd'hui, on peut... Après, alors 17h30, vous pouvez assister au rallye planétaire animé par le PNR 2000 vaches en Limousin. Donc je vous lis le résumé. Un scientifique spécialiste des planètes doit faire une conférence sur le système solaire, mais un peu dans la Lune, elle a oublié plein de détails. Aidez-la à mettre de l'ordre dans ses notes. Sur un chemin de 2 km, découvrez les particularités de chaque planète.
Et oui, c'est vrai qu'à force de n'interviewer que des scientifiques masculins, tes petits biais sexistes ressortent, Raphaël.
Sexiste, oui, c'est une langue à fourcher. Je proteste. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de femmes sur ces plateaux.
Non, on a eu des meufs artistes. Ouais. Enfin bref, c'est pas grave.
Bon, la prochaine fois, on fera quelque chose autour des femmes astrologues. Astronome, oh là là, c'est un bien sexiste. Voilà, les sorcières, les astrologues, je m'enfonce.
Alors, à 18h30 et à 20h30, pour se remettre de toutes ces émotions, vous pourrez aller voir un concert nocturne par la compagnie de musique télescopique.
Oui, alors pardon, ce qu'on n'a pas dit, oh là là, on envoie les gens n'importe où. Là, on n'est plus à Mémac depuis le rallye planétaire.
On est à 1000 vaches.
Parce que la fête,
c'est pour ça que c'est une autre page.
Sur deux sites, voilà.
Intéressant.
L'après-midi, c'est donc jusqu'à 17h30, c'est à Mémac. Et à partir de 17h30, c'est plutôt du côté de 1000 vaches. Voilà. Et ça se terminera d'ailleurs par un spectacle à 21h30 à 1000 vaches qui s'appelle Martine, voyante de la nuit. Ah bah voilà, tu vois. Territoire, le tarot de la nuit. Voilà.
Par la compagnie Midi à l'Ouest. Mais avant ça, à 19h30, il y aura Histoire de Velada par l'Institut d'études occitanes du Limousin. Voilà, si ça vous intéresse.
Les Veladas, c'est l'éveillé traditionnel qui avait lieu dans le pays.
Mais ça ne se finit pas du tout à 21h30, il y en a toute la night, puisque à 22h30, il y a un truc pour découvrir la voûte céleste. Et alors, ce n'est pas précisé ce que c'est marqué expérience au pluriel. Et voilà, je ne sais pas.
Observation à l'œil nu et avec du matériel d'astronomie, manipulation d'équipements d'astronomie, photographie du ciel profond, anecdotes captivantes et explications sur les constellations et les astres.
Ah oui, il suffisait de lire la description, ouais. C'était beaucoup plus clair.
Mais qu'on a vraiment bien préparé notre séquence, c'est terrible.
Oh, ça va, on était en direct toute la journée.
Oui, on est un peu fatigué aussi. Alors, à 22h30, toujours promenade nocturne pour observer les chiroptères, les vers luisants et au-delà, par le PNR de Millevaches en Limousin. Donc là, bah voilà, on va aller pouvoir voir des vers luisants. Ah, je ne savais pas qu'il y avait des vers luisants, tiens, dans le coin, j'en ai jamais vu. Et écouter des chauves-souris.
Ouais. T'as déjà vu des vers luisants récemment, tout court, dans l'absolu ?
Alors là, tu me poses une bonne question. Oui, plutôt dans les endroits où il faisait chaud, j'en ai vu. Oui, oui.
Mais j'en ai des souvenirs d'enfance. Tu peux prendre un micro si tu veux.
Ouais, si tu veux parler. Faut...
Je pense que c'est une question d'altitude. Je pense qu'on doit être un peu haut pour le vers luisant.
Ah,
on les voit souvent plutôt au bord de la mer, quoi.
Alors là, donc du coup, ça va être un peu un challenge puisque ça se passe à Millevaches, qui, on rappelle, est pas loin de 900 mètres. Donc peut-être
un challenge pour les vers luisants.
Ou peut-être qu'ils en ont semé. Pour peut-être. Que les gens puissent les
Alors
voir.
Ça, c'est à la mode. Ça me fait penser à une entreprise en France. Il y a une chercheuse qui a fait un travail sur la bioluminescence et qui travaille sur le caractère bioluminescent des végétaux et qui espère un jour, pourquoi pas, créer des arbres bioluminescents pour éclairer les villes.
Des arbres luisants. Mais on a dit que c'était la lumière n'était pas la solution. Enfin, ouais. Mais arrêtez tout.
Oui, mais ce serait une lumière peut-être plus naturelle, faut voir.
Retirez-lui tous ses fonds, tout de suite, maintenant.
Voilà, et donc, je vais arrêter de dire on termine avec, parce qu'à chaque fois, tu me trouves quelque chose de plus tard.
Non, on termine vraiment avec, voilà, c'est promis.
À 23h, spectacle Phosphène par la compagnie Libertivore, en partenariat avec la scène nationale de Busson. Je te laisse lire le résumé.
L'obscurité change notre perception et transforme notre rapport au monde, j'étais en train de le dire. Moins voir, pour mieux ressentir, des danseuses acrobates, des musiciens et un plasticien nous invitent dans cet espace trouble entre rêve et réalité. Un élan simple pour se sentir vivant, ensemble, sous les étoiles.
Waouh, voilà, et ça se termine comme ça ce soir à Millevaches.
Mais c'est pas fini.
Allez, demain, alors retour à Mémac, demain dimanche. On peut commencer dès 10h. Avec une petite balade pour se mettre en jambes. Prenez de la hauteur, animée par le pays d'art et d'histoire Haute-Terre, Corrézienne et Ventadour, pour découvrir Mémac depuis ses toits et rencontrer son ciel. Alors, je ne sais pas si on va marcher sur les toits, mais c'est à découvrir. Ça peut être intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de toits à Mémac.
C'est un peu casse-gueule quand même, parce que les toits, ils font à 45 degrés.
C'est qu'ils sont très pentus, on les voit d'ici.
Très pentus. Ouais.
Alors voilà, amateur de sensations fortes, rendez-vous. À 10h, alors c'est pas indiqué où, mais je pense que c'est dans le centre de Mémac.
Si, il y a marqué un petit 10, alors après on peut vous en informer, mais alors faut de la coordination, c'est pas facile.
Oui, c'est un peu compliqué. Peut-être 10... venez à Mémac et prenez un
mairie,
programme.
C'est à la mairie. Voilà. Après, on va pas faire tout le boulot pour vous non plus.
Non, quand même. Soyez raisonnable. Alors,
à 10h aussi, si vous n'aimez pas les sensations fortes, si vous préférez par exemple les sensations molles, vous pouvez aller voir une conférence, la pollution lumineuse, connaître son impact pour mieux agir. C'est une conférence de Romain Sordello, qui est ingénieur écologue à Patrinat, qui est le Muséum national d'histoire naturelle et l'Office français de la biodiversité. Voilà, donc on va aussi parler d'éclairage nocturne et de pollution lumineuse.
Voilà, 10h toujours, décidément, mais 10h c'est l'heure où il se passe tout. Les petits cours de la nuit proposés par la Microfolie avec l'agence du court-métrage, donc une projection de court-métrage sur le thème de la nuit, la lune et les étoiles. Et c'est à partir de 3 ans, je le précise, voilà. Il y a aussi des choses pour les enfants. D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé, mais juste à côté de nous, il y a un planétarium qui est installé sous la halle de Mémac, qui est notamment destiné aux enfants, mais pas que. En tout cas, pour les enfants, c'est tout à fait adapté. On retire ses chaussures, on se glisse dans le nid douillet d'une structure gonflée, et on a une personne qui nous accompagne dans la découverte du ciel étoilé. Donc
des constellations, entre autres.
Et des constellations. Alors voilà, on vous invite aussi à tenter l'expérience en famille. Ça peut valoir le coup.
Et si vous êtes un enfant,
oui.
Demain à 11h, et que vous avez des parents, vous pouvez les emmener pour un atelier parents-enfants. C'est proposé par la compagnie La Bobine, et c'est toujours en partenariat avec la scène nationale de Busson. C'est un atelier pour reproduire les chants d'oiseaux.
Ah.
basé voilà. sur une chanson de la représentation de la veille, donc basé sur, sur une chanson de, du spectacle dont on parlait tout à l'heure.
Voilà, donc on aura peut-être le droit à des imitations d'engoulevent, comme on a eu tout à l'heure.
Tu sais faire l'engoulevent, Lionel ?
Alors, si j'ai bien retenu, ça fait...
Ouais, c'était quand même mieux, Olivier.
Hein, ouais. Ouais. Désolé. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? À table ronde, allez, 11h30, une table ronde sur les conflits d'usage de l'espace. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure avec, je ne sais plus avec qui, peut-être avec François Bouchet. Voilà, qui vont parler. Ils sont, alors, il y a un peu tout le monde. Jean-Loup ouais. Chrétien, François Bouchet, Daniel Kunt, Alain Riazuelo et Karim Benabed. Donc, en gros, la moitié de l'Institut d'astronomie de Paris qui va être là pour parler des conflits d'usage de l'espace. Ils aborderont la question de la pollution lumineuse du ciel, la question des débris et les conflits dans l'espace. Vaste programme. Ça dure une heure.
Mais oui, c'est pas plus mal parce que, quand même, tu vois, tous ces gens qui disaient oui. On s'unit tous sous les mêmes étoiles, ça met de côté des conflits et tout ça. Moi, voilà. Il me semblait bien que quand même, ça avait été l'objet de conflits à des moments, l'histoire spatiale. Donc, bon.
Tout à fait, c'est bien. Remettons un peu de conflit là-dedans. C'est un peu trop consensuel, cette fête. Non, non, un peu de...
Exactement. Mais tu vas y mettre ça à la fin pour pas gâcher, quand même.
Exactement.
Puisque, une fois que tout le monde sera bien tendu...
Voilà, à 13h, qu'est-ce qu'on fait pour se réconcilier ? Bah oui, autour d'un petit verre. Donc, c'est l'apéritif de clôture avec... Un mot de clôture du président du parc, bien sûr, et présentation du travail la nuit du parc mené avec les enfants du territoire dont on a parlé tout à l'heure avec Violette. Et attention, l'apéritif est offert.
C'est
par
gratuit.
Le PNR. Et oui. Et alors j'en profite, c'est pas sur le programme, mais il se trouve qu'il y a une élection demain, et donc on vous conseille aussi de trouver un petit moment pour aller voter.
Bah, par exemple, avant 10h.
Oui, alors ça peut être avant 10h ou après 13h.
Voilà, ou sur le chemin de la balade, prenez de la hauteur.
Peut-être, oui,
que, peut-être que vous pouvez prendre de la hauteur et aller voter en conséquence.
Voilà, si, vous, si votre bureau de vote est sur le chemin de la balade, pourquoi pas, ouais. Effectivement. Ça peut arriver.
Ça peut arriver.
Voilà.
D'autant que ça part de la mairie. Donc je ne sais pas où est le bureau de vote, mais ça doit être pas loin du point de départ.
Voilà, donc si vous êtes inscrit à 1000 vaches, faites ça. Sinon, prenez le temps, si vous ne l'avez pas encore fait, après 13h, voilà, prenez le temps d'aller voter. Voilà, bah on a, je crois que c'était pas mal. Peut-être qu'on va parler aussi un tout petit peu, avant de laisser les auditeurs, les auditrices, d'un autre programme.
Eh oui.
Parce que là, on a fait de la pub
c'est
pour le PNR.
C'est vrai que, oula, j'allais oublier.
Mais oui. Alors, c'est les 20 ans du PNR. Bonne fête, le parc.
Bonne fête à tous les blaireaux et les hérissons.
Et aussi aux agents du parc.
Et aux agents du parc.
Et aux élus. Et aux
et
habitants.
Aux élus. Et aux voilà. habitants et aux habitantes.
Et aux habitantes. Mais il n'y a pas que ça aujourd'hui. C'est quoi ? Qu'est-ce
c'est
qui se passe ?
L'anniversaire d'un petit garçon.
D'un petit
qui s'appelle
garçon.
Hervé.
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 Radio.
C'est Radio Vassivière.
Qui a
40 ans. Oh. Bravo Hervé. Bravo
Bonne
Hervé.
Fête. Joyeux anniversaire Hervé.
Joyeux anniversaire Hervé.
Oh. Alors qu'est-ce qui se passe pour son anniversaire ?
On lui a fait une grande fête.
Oh.
En fait, nous on était en train de faire diversion, vous le saviez pas. Mais pendant ce temps, il y a tout le reste de l'équipe de Radio Vassivière, quasiment tout le reste, qui est en train de s'activer. À préparer une grande fête à Broussa. On a, pour ça, on a profité du fait qu'il y avait les 10 heures de paddle. Et donc,
Broussa sur le lac de Vassivière.
Sur le lac de Vassivière, c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas où c'est Broussa. Et voilà, et donc à partir de 21h, on aura des concerts toute la night pour faire la fête. Et avant ça, on tiendra une buvette à 16h, donc dans pas trop trop longtemps. Vous entendrez peut-être la petite voix de Nini et de Lilou, les petites voix de Nini et de Lilou, qui vont du coup faire un direct elles aussi et qui vont reprendre l'antenne. En tout cas, on espère vous voir nombreux et nombreuses sur la plage de Broussa.
Ben oui, venez, il y a plein de concerts. Moi, j'ai pas le programme en tête, mais je crois qu'il y a peut-être
y a de la
cumbia, 4-5 concerts,
y a de
ça, c'est ça, de l'électro. Ah, elle va chercher le programme. Mais en tout
donc,
cas,
si je comprends bien, les diurnes vont devenir nocturnes.
Exactement. On va pourrir la vie, la biodiversité du lac de Vassivière toute la nuit. On se venge un peu. On
les... oui. Non, d'autant qu'il y aura des lumières en plus.
En plus, voilà. Beaucoup
et
de lumières, beaucoup de sons.
D'accord.
Donc, si vous êtes un chiroptère, si vous êtes un hérisson ou un blaireau, évitez de passer par Broussa ce soir.
Voilà. Demain, vous avez mes Macs pour vous.
Voilà, demain, on arrête. Ça va, vous pourrez reprendre vos activités. Il n'y a pas non plus que les blaireaux.
Voilà. Vous dormirez bien dans la nuit de dimanche à lundi.
Voilà,
voilà.
Une fois
là,
tous les 40 ans.
C'est notre anniversaire.
Voilà.
Donc, venez tous, toutes, à l'anniversaire de Radio Vassivière.
Voilà, donc les concerts quand même, on vous les présente, ça commence à 21h, il y aura Ata Radio, c'est de l'afro-colombien, Solstice Selector, c'est donc des raretés tropicales, on aura une version live du Love Mega Blast Misty Show, le Love Mega Blast Misty Show c'est une émission de Radio Vassivière, et donc elle propose des vastes paysages dansants. Il y aura aussi Tutti Fruits, c'est de la cumbia, Éducation Nationale qui est de l'électro-trash punk, et Iborja qui est de l'électro-adaptable.
Comprenne qui pourra.
Moi je ne sais pas tout ce que ça veut dire, le monde de la programmation musicale est réservé à Fabien.
En tout cas ça donne envie, il y a beaucoup de choses et puis ça va danser. Ça va bouger, donc il y aura moyen de se réchauffer. Il ne va pas faire super chaud, mais il ne va pas pleuvoir ce soir.
Et il y a des barnums de toute façon. Donc au pire, s'il y a une petite drache, un petit moment comme ça,
il y en aura pas.
C'est pas grave. Non, mais on est équipés, tout est prévu. Venez, c'est nous qui gérons. Ça va être formidable.
Prenez une petite laine et puis vous allez vous bouger et vous allez vous réchauffer au rythme endiablé de la cumbia, de l'électro et de l'électro-trash punk.
Et en plus, franchement, dans l'histoire de Radio Vassivière, jamais on a fait un truc foireux. Donc vraiment, ça vaut le coup de nous faire confiance.
Absolument. Non, mais ça va être super. Venez nombreuses.
Joyeux anniversaire, Hervé.
Joyeux anniversaire.
Gros bisous, Hervé.
Allez. Eh ben, merci à toutes, merci à tous. Merci, Justine, à la technique et puis aux petits commentaires aussi.
Oui. Merci Lionel.
Merci Lionel qui nous a accompagnés toute la journée.
Merci à vous.
Et puis merci à tous les invités qui se sont succédés au micro de Radio Vassivière.
Et merci Raphaël à l'animation.
Et applaudissements. Voilà, on applaudit tout le monde. Et on vous laisse. Profiter de ce qui reste, de tout le beau programme qui reste de la fête du PNR et aussi de la fête des 40 ans de la radio ce soir. Et on vous dit à très bientôt.
Prenez soin de vous, prenez de la hauteur. Tout ça, tout ça.